Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans ce site prestigieux au nom de l'association Shiatsu 86, qui est une association antenne départementale de la Fédération France Shiatsu. Nous avons organisé cette conférence, table ronde, suite à des concours de circonstances et qui ont permis donc de regrouper nos intervenants. Et nous tenons donc à remercier sincèrement l'espace Médos France d'avoir accepté de nous recevoir, parce que c'est une première. Également un grand merci à nos intervenants, le docteur Bahué, médecin en oncologie au service cancérologie de Poitiers, au CHU de Poitiers, pardon. Sylvie Bahué, qui est responsable de l'espace ERI au CHU. Sylvie Aubert, qui s'occupe de l'espace ERI au pôle cancérologie du CHU de Poitiers, également donc Dominique Chevalier, qui est kinésithérapeute sur Bordeaux, qui présentera le shiatsu en soins de support en cancérologie, qui est également donc praticien et enseignant en shiatsu. Un grand merci également à Alexia Blondel, spécialiste en huiles essentielles, soins de support également en cancérologie, donc objet de notre table ronde, qui intervient à l'espace ERI au CHU de Poitiers en animant des ateliers olfactifs qui sont pris en charge par la Ligue contre le cancer. Donc cette conférence... Ces conférences vont durer approximativement une bonne heure. Après, nous vous donnerons la parole pour qu'il y ait des échanges. Vous avez certainement des questions sur le sujet. Donc, pendant la conférence, je vous demanderai d'éteindre les portables. Et une chose supplémentaire, tout va être enregistré, donc ça vous permettra de le réentendre ultérieurement sur le site donc, de l'espace Médos France et également sur le futur site de Shiatsu 86. Voilà. Donc vous avez, nous n'avons donc pas de site, vous avez des documents et des cartes de visite sur la table à l'extérieur qui vous permettront de prendre contact et également les références de l'école. Fédéré Franche Shiatsu. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne conférence et merci encore.
Bonjour, je suis Laurence Bahué, je suis médecin généraliste et je travaille dans le service d'hospitalisation complète d'oncologie médicale. Je ne suis pas du tout spécialiste ni en shiatsu ni en aromathérapie, donc je passerai la parole à mes confrères rapidement. Je vais vous expliquer un petit peu comment le shiatsu est arrivé dans le pôle de cancérologie. Donc, je travaille depuis 10 ans maintenant en cancérologie et dans l'équipe, quand je suis arrivée, il y avait une aide-soignante présente ici, Maria, qui elle-même s'était formée en shiatsu, en reiki, enfin en certaines techniques qui lui semblaient intéressantes pour les patients. Et donc, elle pratiquait auprès des patients de façon non officielle, quoi, quand on en sentait le besoin, elle proposait et voilà, on donnait carte blanche parce qu'il n'y a pas franchement de contre-indication pour les patients.
Donc voilà, et nous, on remarquait bien un bien-être, une détente, enfin vraiment une amélioration de l'état des patients avec ce genre de technique. Donc voilà, tout ça a continué un petit peu de façon non officielle, bien qu'elle ait eu le projet à maintes reprises de mettre des choses en place, mais c'était un petit peu compliqué parce que c'était pas du tout dans l'air du temps de mettre des médecines de ce genre dans les hôpitaux. Et puis Maria a pris sa retraite et elle n'a pas du tout eu envie d'arrêter ses soins, ce genre de soins auprès des patients. Et donc elle a organisé des ateliers de shiatsu pour le PRC auxquels participent donc les patients qui le souhaitent. Donc je vais passer la parole à Sylvie Aubert, qui s'occupe de l'espace rencontre information, qui, elle, saura mieux expliquer que moi comment tout ça est organisé.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis accompagnatrice en santé et j'anime cet espace qu'on appelle espace de rencontre et d'information, l'ERI, au pôle régional de cancérologie. Donc, l'ERI est ouvert depuis 2009, depuis l'ouverture du pôle régional de cancérologie du CHU de Poitiers. Alors cet espace, il fait partie d'un accompagnement anonyme, neutre et puis d'un accompagnement assez complet. Et dans cet accompagnement-là, il m'a semblé bon à un moment, après avoir rencontré Maria et vu un petit peu quelle était la demande des patients et des proches, de pouvoir proposer des ateliers. Alors c'est vrai que le pôle de cancérologie, déjà quand il a ouvert, il a fait la place belle en plus des soins médicaux, des soins des soignants et j'allais dire de toute la partie technique qui était déjà là précédemment avant l'ouverture du pôle, aux soins de support en général. Alors le soin de support, c'est tout ce qui va apporter un mieux-être, c'est tout ce qui va permettre d'accompagner, notamment sur la gestion des effets secondaires. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai d'abord travaillé un petit peu avec Maria et puis après ça s'est ouvert plus largement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le pôle, on a aussi d'autres soins de support. On a les psychologues, on a les assistantes sociales, on a les kinés, on a les diététiciennes et puis aussi on a une socio-esthéticienne qui est là cet après-midi et qui intervient aussi auprès des patients et ça fait vraiment partie de tout un cadre enveloppant qui permet aux patients de mieux traverser les traitements et la maladie. Donc sur les ateliers, c'est vrai qu'avec Maria, on avait mis une après-midi par trimestre environ, où donc bénévolement, des personnes formées au shiatsu viennent et proposent du shiatsu assis. Et puis ouvert vraiment à tous, hein. C'est ouvert aux patients, aux proches, mais c'est aussi ouvert aux équipes médicales, soignantes, aux administratifs. Donc ça fait qu'à un moment, on peut tous bénéficier d'un moment de bien-être, un moment de mieux-être. Et puis depuis que Corinne est devenue présidente de Shiatsu 86 pour le département de la Vienne, eh bien on a repris ce travail-là et on va proposer un calendrier sur toute l'année 2014.
Est-ce que je peux avoir ton micro ? Parce que moi je vais naviguer. Merci. Bien, bonjour à tous. Je voulais remercier tout d'abord l'association Shiatsu 86 pour son dynamisme et la merveilleuse idée que cette association a eue de mettre en place cette conférence aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu de Shiatsu, mais avant je voudrais savoir qui parmi vous connaît déjà Shiatsu. Est-ce qu'il y a déjà des praticiens, des étudiants certainement ? Et parmi les autres personnes, est-ce que vous avez déjà reçu des soins de shiatsu ? Oui, ah bon. Donc on n'est pas complètement dans l'inconnu. Donc on va essayer de discuter un petit peu cet après-midi de l'intérêt du shiatsu pour accompagner des personnes atteintes d'un cancer. Donc on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que le shiatsu peut ou n'est pas peut-être considéré comme un support de soins dans cette prise en charge globale du patient cancéreux ? Donc voici le plan que je vous propose qu'on discute un petit peu cet après-midi. Et on va commencer par un avertissement. Donc ça va être mon coup de gueule un petit peu de l'après-midi. Il faut absolument que vous sortiez d'ici avec une seule idée. Si vous devez retenir une seule chose, c'est ce que je vais vous dire maintenant. En aucun cas, le shiatsu ne peut guérir un cancer. Le cancer est quelque chose d'extrêmement sérieux, quelque chose qui appartient en propre à la médecine officielle. Donc nous, on est juste là pour essayer d'apporter quelque chose, mais en aucun cas pour guérir le cancer. Si quelqu'un vous dit qu'il va guérir un cancer par le shiatsu, vous êtes en droit de porter plainte, de le faire mettre en prison. C'est du charlatanisme à l'état pur. Donc si vous devez retenir une seule chose cet après-midi, c'est bien ça, on n'est pas là pour guérir le cancer. C'est-à-dire que nous, en tant que praticiens shiatsu, il faut que notre contrat soit très clair, déjà dans notre tête, savoir qu'on n'est pas là pour guérir, mais essayer d'apporter un confort à nos patients. Ensuite, il faut que le contrat soit très clair également avec les patients qui vont recevoir un shiatsu. Il ne faut surtout pas que ces personnes s'imaginent que grâce à cette prise en charge, le cancer va être guéri. Ce n'est pas vrai du tout. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, je voulais vous dire que, en tant que peut-être futur utilisateur du shiatsu, il vous appartient de vérifier la qualité de votre praticien. Il y a sur le marché actuellement de nombreux praticiens qui ont des formations complètement rabais, hein, sur 2 week-ends, 3 week-ends, 1 semaine, et qui affichent un super diplôme dans leur salle d'attente écrit en japonais. Ils sont certifiés de l'Institut supérieur de je ne sais pas trop où. Donc attention, attention, attention. Moi, je vous invite réellement à prendre, quand vous prenez contact avec votre praticien shiatsu, de lui poser des questions. Quel était son cursus? Combien d'heures de formation? Moi, je ne suis pas du tout de l'obédience shiatsu, franc shiatsu, mais on travaille un petit peu dans la même optique. Je sais que franc shiatsu forme des praticiens en 300, 400 heures. Nous, à la Fédération française de shiatsu traditionnel, on est sur 500 heures. Donc, ça commence à devenir sérieux. On forme des gens sur 4 ans et ce sont des gens qui seront capables de répondre à vos attentes. Donc ça, soyez extrêmement vigilants par rapport à ça et n'hésitez surtout pas à leur poser des questions. Alors, on va revenir un petit peu sur ce shiatsu qui n'est pas une technique qui permet de guérir un cancer. Et j'ai repris une citation de maître Shizuto Masunaga, qui est un des concepteurs du shiatsu avec notre ami Namikoshi. Alors, Masunaga nous disait qu'un nombre croissant de gens est désabusé par les effets secondaires des drogues chimiques et se tourne vers la médecine populaire comme alternative efficace. Cependant, un excès de zèle a conduit à des articles proclamant les remèdes populaires comme une panacée. Cette exagération est aussi néfaste pour le public qu'un article faisant état d'un médicament particulier pourrait éliminer toutes les maladies. Afin de promouvoir une connaissance et une utilisation correcte de la médecine populaire, nous devons la considérer dans sa propre perspective, c'est-à-dire avec ses limites et ses possibilités. Il en est de même pour le shiatsu. Je pense qu'on peut être, plus clair. Donc, c'est correspond exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on ne guérit pas avec le shiatsu. Bon, qu'est-ce que c'est que le shiatsu? Parce que vous avez vu des affiches, on va essayer de déblayer un petit peu cette histoire-là. Donc, tout d'abord, ce n'est pas ça. Ça, c'est un shiatsu. Alors, j'ai le droit très souvent à cette question. On fait souvent le parallèle entre le petit chien et puis notre technique. Donc, on ne va pas du tout parler de petits chiens cet après-midi, on va parler d'autre chose. Alors, si on reprend un petit peu l'étymologie du mot shiatsu, il est composé de deux idéogrammes, l'idéogramme supérieur, que vous trouvez ici, qui signifie doigt, c'est-à-dire chi en japonais, et puis l'idéogramme inférieur, toute cette partie-là, c'est atsu, qui signifie pression. Donc, si on reprend simplement l'étymologie du mot, c'est une pression avec les doigts. Alors, pression avec les doigts, oui, mais pas que. On va travailler également avec tout un tas de parties de notre corps. On va travailler avec nos mains, avec nos paumes. On va travailler avec nos coudes, on va travailler avec nos genoux, on peut travailler avec nos pieds, pas avec les oreilles ni avec le nez. Mais globalement, on arrive à faire tout un tas de choses avec des mains relativement intelligentes. Donc ici, vous avez une représentation d'un praticien shiatsu avec ses coudes. Et on va travailler sur quoi? On va travailler sur nos fameux méridiens d'acupuncture. Donc j'imagine que tout le monde a entendu plus ou moins parler de ce qu'était un méridien d'acupuncture. Une belle affaire cette histoire-là, mais qu'est-ce que c'est qu'un méridien d'acupuncture? Alors c'est un petit peu compliqué pour nous de vous expliquer ça, parce qu'il n'y a pas de réalité virtuelle à ce concept. Autant un nerf, on sait ce que c'est, on arrive à le disséquer, on arrive à trouver facilement, quand on fait de la chirurgie, un vaisseau sanguin, on sait ce que c'est. Un canal qui transmet de l'énergie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les Chinois ont cartographié il y a plusieurs millénaires un petit peu des trajets sur le corps, des trajets où va circuler l'énergie. Alors, quelque chose de très empirique, mais qui a été un petit peu... on a une sorte d'épreuve scientifique de la réalité pas forcément physique, mais de la réalité de ces fameux méridiens. Et je voulais vous parler pendant 2-3 minutes d'un petit peu d'une expérience qui a été faite en 2005 par une équipe de chercheurs allemands. Alors, ce sont des Allemands, hein, donc des gens sérieux. Hein. Attention, ce ne sont pas les charlatans du coin. Et ensuite, les trois personnes qui ont travaillé sur cette étude sont tous les trois titulaires de chaire en faculté. Donc, doublement sérieux. Alors, ces gens-là ont essayé de trouver le trajet des méridiens et pour ça, ils ont travaillé avec ce qu'on appelle des moxa. Alors, les moxa, ce sont des petits bâtonnets d'armoise que l'on fait chauffer et qu'on peut appliquer sur un point d'acupuncture pour essayer de redonner un petit peu d'énergie à ce point d'acupuncture. Alors, sur cette diapo, ils ont appliqué le moxa au niveau lombaire. C'est quoi tout ça qui arrive ? Alors, l'objectif était après de voir avec une caméra thermique infrarouge s'il y avait possibilité de voir un petit peu ce qui se passait. Alors, ils étaient partis avec l'idée que, normalement, au niveau du point d'impact, il devrait y avoir une grosse zone de chaleur, ce que vous avez en blanc. Ensuite, que cette chaleur devait se diffuser de manière excentrique, hein, ce qui est tout à fait normal. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient, en tout cas, que ça puisse partir de manière excentrique, c'est-à-dire que plus on s'éloignait du point, plus on était sur une zone qui était froide. Donc, c'est ce qui se passe ici, au niveau lombaire. Mais à leur grande surprise, ils ont constaté ce que vous avez ici en rouge et en jaune. Donc on n'est plus du tout, on est très loin du point d'impact de notre moxa. On est sur un trajet qui est tout à fait spécifique. Le point d'application était fait sur un point du méridien de la vessie et ils se sont rendus compte qu'il y avait non pas une diffusion excentrique de la chaleur comme ils l'imaginaient, mais une diffusion qui suivait exactement le trajet des méridiens. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça a été fait pour les 12 méridiens qu'on a sur le corps. Ils ont retrouvé exactement les trajets que les Chinois avaient trouvés de manière empirique il y a plusieurs millénaires. Alors cette expérience, moi, je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que quelque part, ça nous apporte un petit peu d'eau à notre moulin. Ça apporte de l'eau au moulin de nos amis acupuncteurs parce qu'on a quand même une réalité maintenant un petit peu physique pour décrire un petit peu ce trajet de l'énergie. Alors, pour reprendre une définition telle que la Fédération française de Shiatsu traditionnelle l'a décrit, mais j'imagine que Franck Shiatsu a une définition à peu près similaire à la nôtre. Alors, le Shiatsu est une technique qui est d'origine japonaise. C'est une discipline énergétique naturelle et holistique basée sur le toucher. Alors, nous ne sommes pas une technique médicale. On est bien clair, on ne va pas se fâcher avec nos amis médecins. Et nous ne sommes pas non plus une technique de massage. Là aussi, on ne va pas se fâcher avec nos amis kinésithérapeutes. Le shiatsu n'est pas une idéologie. C'est une technique de bien-être, une technique de relaxation. Alors, quelques effets, qu'est-ce que va nous apporter le shiatsu ? Je vous ai listé quelques effets. La liste n'est bien entendu pas exhaustive. Les principaux effets qu'on va trouver, c'est de relaxer l'esprit, le corps, c'est d'apaiser. Ça va permettre également de rétablir et d'équilibrer l'énergie. Ça, c'est extrêmement important. Pour ça, je vous ai mis 3 croix pour cet item. Nous allons pouvoir prévenir les maladies en stimulant les défenses naturelles de l'organisme. On facilite la respiration, s'améliore la circulation, ça va stimuler le bien-être et puis ça va soulager toutes les tensions et les raideurs. Quelques indications, là aussi la liste n'est pas exhaustive. Les problèmes de dos, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, les addictions, les céphalées, fatigue, stress, dépression, problèmes de règles, douleurs, etc. etc., etc. On n'a pas de limite en shiatsu, il n'y a pas de réelle contre-indication si ce n'est les cas de phlébite. Bon, avec une petite parenthèse quand même, quand on apprend nos étudiants le shiatsu, on leur dit que le cancer est une contre-indication au shiatsu. Ah, et on va parler de cancer cet après-midi au shiatsu. Donc on est complètement dans la dichotomie. En fin de compte, il n'y a pas de réelle contre-indication. On donne cette précaution par rapport à nos étudiants parce qu'on aime qu'ils aient un petit peu d'expérience avant de partir sur des pathologies très lourdes. Alors, ce qui avait été évoqué par rapport au shiatsu et le cancer, c'est que des personnes bien pensantes ont dit qu'en stimulant l'énergie, qu'il y avait toujours le risque de véhiculer des cellules cancéreuses vers des zones saines pour éventuellement produire des métastases. Alors, ça n'a jamais été prouvé ni dans un sens ni dans l'autre. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé mes études de kinésithérapie, ça fait une paire d'années maintenant, on nous disait exactement la même chose par rapport au massage. On disait, vous ne massez pas un patient cancéreux parce que le fait d'améliorer, d'augmenter la circulation sanguine, vous risquez de faire migrer des cellules saines vers des zones pour que se fassent des métastases. Ça ne s'est jamais produit, ça n'a jamais été prouvé. Et maintenant, on conseille très largement le massage dans la prise en charge des patients cancéreux. Donc, même chose pour le shiatsu, même si on le donne comme contre-indication, en tout cas, à nos étudiants de première année. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de shiatsu, ce n'est pas le but du jeu. L'idée, c'est qu'on parle un petit peu de cancer. Mais j'aimerais quand même vous donner deux ou trois définitions pour que les choses soient claires par rapport au vocabulaire que je vais pouvoir éventuellement utiliser. Alors, quelques définitions en lien avec le shiatsu pour commencer. Je vais vous parler du bilan énergétique du hara. Alors, le hara, en gros, c'est notre abdomen. Et il se trouve que sur notre abdomen, nous avons des zones de projection des différents méridiens. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. En palpant notre abdomen, on va déterminer là où sont les zones en hyperactivité et les zones en hypoactivité. Donc, je vous ai mis une représentation ici des différentes zones de projection des méridiens. Alors, je pense que nos amis France Shiatsu n'utilise pas ce type de bilan. Si vous l'utilisez, d'accord, super. Donc, les notions de Kyojitsu, ça va choquer personne, c'est ça? Bon, je pensais que vous n'aviez pas de bilan, vous, chez vous. Bon. Donc, j'étais resté sur une conception des Namikoshi un petit peu erronée. Donc, un bilan qui va nous permettre d'établir, notre base de traitement. Ensuite, nos fameux Kyojitsu. Alors, ce n'est pas des gros mots, hein, je vous rassure. Hein. Le jitsu, c'est lorsqu'on va faire notre palpation, quelque chose qui va s'apparenter à un messager. C'est le symptôme, en fin de compte. C'est ce qui va nous sauter aux yeux. C'est le méridien qui va être en hyper-fonctionnement. Et à côté de ça, on a notre kyo. Alors, notre kyo, c'est quelque chose de caché. Ce sont nos émotions qui sont inexprimées. Il est extrêmement compliqué à trouver, notre kyo, mais il est très intéressant quand on peut l'avoir parce que c'est la cause du problème. Donc, si on faisait une petite allusion, si vous voulez, à un iceberg, la partie émergée de l'iceberg, ça va correspondre à notre jitsu. C'est ce que vous allez voir. Par contre, toute la partie kyo, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et là, je vais vous révéler un scoop mondial. Donc, attention, hein. Ce n'est pas jitsu qui a fait couler le Titanic, mais c'est kyo. Donc, vraiment quelque chose de très profond, très caché. Alors, notre objectif, nous, en tant que praticien shiatsu, eh bien, ça va être simplement d'essayer d'équilibrer entre kyo et jitsu. C'est-à-dire qu'on va vider la partie énergétique où il y en a trop, justement, notre jitsu, pour essayer de remplir notre kyo. Alors, il y a des écoles de shiatsu, des styles de shiatsu, où ils vont s'intéresser pratiquement qu'à jitsu, c'est-à-dire s'intéresser aux symptômes. Nous sommes dans le style, le Zen Shiatsu de Masunaga, qui est un style où on s'intéresse en priorité à notre kyo. Donc on va essayer de trouver la cause de notre problème, et si on trouve la cause du problème, on a des chances sans doute d'être plus pertinent que si on travaille uniquement sur le symptôme. Parce que le symptôme, au bout d'un moment, il va réapparaître si on ne règle pas la cause. Donc on va essayer, nous, de travailler plutôt sur notre kyo. Donc je vous disais, notre objectif, c'est de retrouver cet équilibre. Donc on ne va pas aller bidouiller l'énergie, on ne va pas chercher l'énergie je ne sais où. Notre receveur, notre patient a de l'énergie. Parfois il y en a trop d'un côté, il y en a peut-être pas assez de l'autre. Donc on va essayer, c'est de la plomberie hein, tout simplement, de vider le trop-plein pour remplir le trop-vide. Alors quelques définitions en lien avec le cancer. Là je vais me mettre sous réserve du docteur Bawé, qui va sans doute trouver ça très léger, ce que je vais vous proposer. Mais l'idée, c'était que vous puissiez avoir une petite idée de ce dont on va parler cet après-midi. Alors, l'alopécie. L'alopécie, c'est une perte des cheveux, mais également de tout le système pileux. Bon, c'est quelque chose de transitoire, qui est réversible. Elle peut être partielle ou totale. Elle peut être précédée par une sensation douloureuse du cuir chevelu. Et elle commence en général 2 ou 3 semaines après le début de la chimiothérapie. On verra tout à l'heure si nous, en tant que praticien shiatsu, on peut ou on ne peut pas faire quelque chose par rapport à ça. Ensuite, le cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Donc, maladie de la cellule. La cellule, c'est l'unité de base de notre organisme. Normalement, les cellules se reproduisent, hein, ça vit, ça meurt. C'est un processus tout à fait normal. Une cellule cancéreuse, elle est un peu différente de cellule normale, parce qu'elle va se multiplier de manière complètement incontrôlée, et ce qui va former une masse qu'on appelle une tumeur maligne. Ensuite, le casque réfrigérant, j'imagine que vous l'utilisez ici chez vous. Alors, le casque réfrigérant, c'est un casque que l'on passe au congélateur, donc qui est entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius, et on l'applique directement sur la tête des patients qui sont en chimiothérapie. L'idée, c'est que le froid puisse créer ce qu'on appelle une vasoconstriction, donc un rétrécissement des vaisseaux sanguins, et on espère, avec ce type de casque, de ralentir la chute des cheveux. L'arrêter, ça me paraît difficile, mais en tout cas, essayer de la ralentir. Ça peut être très dur hein, de vous retrouver avec quelque chose à moins 20 degrés sur la tête. Les 10 premières minutes sont parfois extrêmement douloureuses. Ensuite, la chambre implantable. Alors, la chambre implantable, c'est un petit système de perfusion qui va comporter un cathéter veineux. Et ce cathéter est relié et placé sous la peau. Alors, l'idée de cette chambre implantable, c'est d'éviter à chaque fois qu'il y a une perfusion de chimiothérapie de piquer les veines. Et on arrive directement, ce processus est implanté par les chirurgiens et ça dure pendant toute la durée de la chimiothérapie. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la perfusion directement dans la chambre implantable sans avoir besoin de repiquer les gens en périphérique. Alors la chimiothérapie, puisque c'est un petit peu notre propos cet après-midi, c'est un traitement général qui va consister en l'administration de substances chimiques par voie intraveineuse en règle générale ou par voie orale. En général, c'est l'association de plusieurs médicaments qui sont administrés de façon régulière. Donc, tout dépend des protocoles. Là, je vous ai marqué toutes les 3 semaines, mais il peut y avoir des chimiothérapies qui sont avec des délais bien différents. Le but de cette chimiothérapie, c'est d'empêcher la multiplication des cellules cancéreuses. Elle va permettre d'inhiber la croissance de la tumeur et de réduire son volume. Elle évite l'extension du cancer vers d'autres organes. Par contre, elle est souvent responsable d'effets secondaires. Et c'est là qu'on va sans doute avoir toute notre place pour essayer de voir si on peut travailler justement sur ces effets secondaires. Les fameux effets secondaires. Alors, ce sont des effets indésirables qui peuvent faire suite à une chimiothérapie. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui n'en ont pas du tout, et c'est tant mieux. Ils sont malheureusement assez fréquents, mais pas forcément systématiques. Bon, avec des effets très variables qui disparaissent plus ou moins rapidement à la fin de la chimiothérapie. On va plus fréquemment rencontrer des problèmes d'alopécie, des problèmes de fatigue, tant physique que psychologique, des nausées, des vomissements, des problèmes de bouche ou des problèmes de peau. Et vous verrez tout à l'heure qu'on a, je pense, une action qui peut être assez pertinente dans notre prise en charge shiatsu sur tous ces effets secondaires. Les métastases, donc, ce sont des tumeurs secondaires qui se développent à partir d'une tumeur primitive suite à la migration de cellules cancéreuses, en général par voie sanguine. Elles peuvent se localiser un petit peu partout, malheureusement. Et enfin, les paresthésies. Les paresthésies sont des petits fourmillements qu'on va trouver au niveau des mains et ou des pieds. Avec une perte de sensibilité, c'est dû en général à une relative toxicité des médicaments qui sont employés. J'espère pas avoir dit trop de sottises. Bon, c'est bien, si j'ai votre aval, c'est parfait. Bon, on en profite en même temps pour faire un petit tour au Japon, hein, avec toutes ces traditions, notamment ces magnifiques cerisiers en fleurs et ces geishas. Alors, le témoignage du docteur Koster Vidal. Je vais vous raconter un petit peu la genèse de cette conférence. Vous avez vu que j'étais kinésithérapeute et il y a quelques années j'ai travaillé dans un centre hospitalier en Charente-Maritime et j'étais en troisième année de formation en shiatsu à cette époque, donc c'était mon année de présentation de mon mémoire de fin d'études. Et j'avais décidé, du fait de cette possibilité de travailler en oncologie en équipe de soins palliatifs, de faire un travail sur la prise en charge des patients cancéreux avec le shiatsu. Alors c'était tout un pataquès pas possible parce que tous les professionnels du shiatsu, à commencer par mon enseignant, ne voulaient absolument pas que je fasse mémoire. Ils m'ont dit c'est un sujet interdit, tu ne vas pas y aller, on va te casser si jamais tu travailles sur ce mémoire. Mais comme je suis un petit peu têtu, j'ai fait quand même ce mémoire avec l'aval de toutes les équipes médicales et paramédicales du centre hospitalier où je travaillais. Et c'était très facile de travailler avec eux, alors que moi je pensais au départ qu'ils auraient plutôt une petite étroitesse d'esprit. Eh bien non, c'était très simple de travailler à l'hôpital. Par contre, compliqué comme tout de travailler avec notamment mon enseignante, plus tous les gens de la fédération qui ne voulaient absolument pas que je fasse ce mémoire. Bon, en tout cas, ça s'est fait. Et puis, j'étais parti d'un article que j'avais lu d'un médecin qui s'étonnait qu'une de ses patientes ne souffre pas trop d'effets secondaires suite aux chimiothérapies qu'elle avait. Et puis, au bout d'un moment, cette dame a fini par lui dire, je ne sais pas si elle l'a dit sous la torture, hein, l'histoire ne le dit pas, mais qu'en parallèle des séances de chimiothérapie, elle recevait des séances de shiatsu. Et ce médecin s'est vraiment interrogé pour savoir si cette prise en charge pouvait être bénéfique ou non pour ses patients. Visiblement, ça l'était. Donc, c'était une question qu'il se posait et je me suis réapproprié cette question pour voir justement si on pouvait avoir une action qui soit pertinente. Alors, le grand principe qui va nous servir de fil rouge, bien entendu, pendant toute cette prise en charge, c'est primum non nocere. Tout d'abord, ne pas nuire. C'est du bon sens. Et ça, ça va nous amener à la règle du double effet de Blackburn. Blackburn, c'est un Canadien qui a énoncé une règle qui dit que l'on peut accomplir un acte ayant à la fois un bon et un mauvais effet, seulement si le bon effet est supérieur au mauvais. Donc on va partir avec cette idée que le shiatsu peut apporter quelque chose, et en tout cas qu'il n'y a pas d'effet secondaire, ou en tout cas très peu d'effet secondaire. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire au shiatsu, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a un petit peu. Je vais vous les décrire très rapidement. Il est possible qu'après une séance de shiatsu, vous vous sentiez complètement fatigué. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous affoler. Ça ne vaut pas le coup d'aller aux urgences. Ils ne sauront pas quoi vous dire. Si ce n'est de vous reposer, c'est ce qu'on va vous dire. Donc, il peut y avoir un effet de fatigue pendant une journée, par exemple. Ce n'est pas grave du tout. Ensuite, pendant la séance de shiatsu, il est possible que vous ressentiez du froid. Alors là aussi, ça ne vaut pas le coup non plus de s'affoler, il faut mettre un petit pull et ça passe en 2 heures, 3 heures. Et puis un autre effet qui est un petit peu moins agréable, c'est qu'après une séance de shiatsu, vous pouvez aller consulter votre praticien pour un problème de dos par exemple, et pendant les 24 heures qui suivent, eh bien, il y a une augmentation des phénomènes douloureux. Alors c'est la grande panique en général, on reçoit les coups de fil, nos étudiants sont complètement affolés parce qu'ils ont dit ça y est, j'ai cassé quelque chose. Non. On n'a rien cassé du tout, c'est simplement le corps de votre receveur, qui est en train de réagir, qui est en train de se nettoyer. Donc ça passe souvent par cette phase, un petit peu d'augmentation des symptômes, mais en général en 24-48 heures, c'est complètement passé. Donc ce sont les seuls effets secondaires qu'on va trouver à une prise en charge shiatsu. Voilà, le mont Fuji. Alors, le protocole tel qu'il a été mis en place à l'hôpital de Saint-Onge, à Saintes, en Charente-Maritime, donc un petit peu au sud par rapport à chez vous, c'est un protocole qui a été fait de septembre 2004 à mai 2005. Alors, c'est un délai qui est très court. Vous allez voir qu'il n'y a que 16 patients qui sont entrés dans le protocole. Bon, vous allez me dire que c'est difficile d'extrapoler des chiffres à partir de 16 patients. Alors simplement, ces 16 personnes sont entrées dans le protocole parce que j'avais un problème de timing. Il fallait, entre le moment où je passais mon certificat de praticien en shiatsu et le dépôt de mon mémoire à la fédération, il devait y avoir quelque chose comme 6 mois. J'ai passé en septembre, donc il fallait que mon mémoire soit déposé pour le mois de mai-juin, au niveau du secrétariat, pour qu'il puisse être lu par le jury d'évaluation. Donc on était sur un temps très très court, mais c'est donc 16 personnes sont entrées dans le protocole. Voilà. Par contre, suite à ce travail, eh bien, le travail shiatsu ne s'est pas arrêté. J'ai travaillé pendant 2 années dans le service d'oncologie de l'hôpital de Saintes, et en tout, ce sont à peu près 150 patients qui ont bénéficié de séances de shiatsu. Donc globalement, on est à peu près sur 500 séances faites à l'hôpital. Qu'est-ce que je voulais dire avec, vous verrez tout à l'heure les chiffres que je vais vous donner. Sur les 500 séances, on arrive à peu près à un demi-point de différence par rapport aux chiffres que je vous donnerai tout à l'heure. Donc globalement, des résultats qui sont plutôt fiables. 16 patients, je vous disais, 13 femmes sont entrées dans le protocole et 3 hommes. Alors, ça ne veut pas dire qu'à Saintes, il y ait plus de cancers féminins qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai du tout. Simplement, au départ, le travail était fait. Enfin, dans ma tête, en tout cas, c'était uniquement sur une prise en charge sur le cancer du sein. Et puis, le médecin oncologue avec qui je travaillais m'a demandé d'ouvrir un petit peu mon panel parce qu'elle avait besoin de prise en charge shiatsu pour d'autres types de cancers. Donc, c'est pour ça qu'on a cette différence. Mais globalement, sur l'ensemble des 150 patients, il y avait certainement autant de femmes que d'hommes qui sont entrés dans cette étude. Donc, on va retrouver ici les types de cancers. Donc, c'est tout à fait normal qu'on retrouve sur les 16 patients 9 cancers du sein, puisque c'était le point de départ de cette étude. Sur les 9 cancers du sein, il y en avait un qui était métastatique. Ensuite, il y a eu 2 cancers du poumon, dont un métastatique, 2 cancers des ovaires, tous les deux métastatiques, 2 cancers du côlon, un métastatique et un cancer de l'œsophage qui était métastatique. La moyenne de nos patients est de 51 ans avec un écart de 22 ans. Donc vous voyez, on a eu des gens très très jeunes qui sont entrés dans le protocole. Personne ne connaissait le shiatsu. Ils ont tous reçu en moyenne 3 séances de shiatsu. C'est un total de 47 séances qui a été effectuée pour ces 16 personnes. Et toutes ces personnes ont présenté des effets secondaires post-chimiothérapie, c'est pour ça que j'intervenais. Et la moyenne était de 6,8 effets secondaires par patient. Et la prise en charge shiatsu était proposée au cours d'une consultation d'oncologie en fonction des effets secondaires qui étaient déjà décrits par les patients. Donc moi, je n'intervenais pas en première intention, c'était toujours sur indication médicale de la part du médecin oncologue avec qui je travaillais. Il y avait systématiquement une évaluation de ces personnes par l'équipe mobile de soins palliatifs. L'idée était, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'on puisse avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Donc il pouvait y avoir une prise en charge avec un psychologue, il pouvait y avoir une prise en charge par du massage qui était fait par les infirmières de l'équipe. On pouvait leur proposer éventuellement une prise en charge shiatsu en fonction des effets secondaires tels qu'ils pouvaient être décrits. Quelque chose d'extrêmement important, le shiatsu a toujours été présenté comme une technique d'aide. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'était pas l'axe du traitement. La priorité était absolument donnée au traitement médical. C'est-à-dire que si on devait arrêter quelque chose, c'était le shiatsu et en aucun cas le traitement de chimiothérapie. Alors, simplement sur les arrêts, je voulais vous préciser que sur toutes les personnes que j'ai pu voir, on a eu un seul arrêt. Alors, ce n'est pas parce qu'on était mauvais sur ce coup-là, c'était une histoire un petit peu familiale compliquée. Simplement, c'était une dame qui avait un cancer du sein, c'était son mari qui l'accompagnait en chimiothérapie et qui ne souhaitait pas qu'on fasse du shiatsu en plus à son épouse parce que ça lui prenait beaucoup de temps et c'était un petit peu dommage pour son parcours de golf. Donc, sérieusement. Donc, j'avais trouvé ça un petit peu très égoïste, cette attitude. Donc, c'est dommage, cette dame n'a pas pu bénéficier autant de shiatsu qu'elle aurait pu, alors que ça lui apportait plein de choses. Elle était très contente, le monsieur avait son golf. Ensuite, toujours dans notre protocole, un résumé écrit de la méthode shiatsu était remis systématiquement au patient, avec les effets éventuellement qu'on pouvait attendre, ce qu'on pouvait espérer de cette prise en charge. Et puis, pour rentrer un petit peu dans le cadre législatif, il y avait un formulaire de consentement éclairé qui était remis au patient, donc signé par le patient, signé par moi également, où il était précisé très clairement qu'on était dans une aide, dans un support de soins, et en aucun cas dans l'axe du traitement, qu'on pouvait arrêter à n'importe quel moment. Alors, l'auto-évaluation des effets secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'une auto-évaluation ? Ce sont les patients qui évaluaient eux-mêmes les symptômes, enfin la gêne plutôt occasionnée par les symptômes. Donc, en fonction des médicaments qu'on pouvait leur injecter, on savait qu'il y avait possibilité qu'il y ait tel ou tel symptôme qui apparaisse. Donc, on demandait, et j'avais fait un listing de tous les symptômes, et puis les gens remplissaient simplement une grille en me disant il y a ou pas chute des cheveux, il y a ou pas fatigue physique, il y a ou pas des nausées, etc. Quel était le moment d'apparition, quelle était la durée, et puis surtout, quelle était l'intensité mesurée sur une échelle numérique de 0 à 10. Alors 0, il n'y avait pas de gêne occasionnée, 10, c'était le maximum que l'on pouvait tolérer. Donc vraiment une auto-évaluation, ce n'est pas nous qui évaluons la gêne occasionnée par les symptômes, mais les patients eux-mêmes. Alors la séance type de shiatsu, donc il y avait un bilan énergétique du hara, comme on a vu tout à l'heure, cette palpation au niveau de l'abdomen. Ensuite, j'avais remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes de nausées, beaucoup de problèmes de vomissements. Donc, un travail systématique sur le méridien de l'estomac pour essayer d'enrayer un petit peu cette problématique. Puis, il y avait un traitement du méridien Kyo. Je vous disais tout à l'heure, le Kyo, c'est la cause du problème. Donc, on essayait d'aller trouver un petit peu ce qui se passait par là. De voir ensuite le méridien Jitsu, celui qui était en hyperfonctionnement, l'utilisation de quelques points spécifiques, et puis toujours suivi d'un temps de repos d'au moins une demi-heure suite à la séance de shiatsu. On faisait un point téléphonique systématiquement à 48-72 heures après la séance de shiatsu, avant de revoir les patients pour la séance suivante. Et quelque chose qu'on, moi, j'avais pas complètement percuté, je vous en parlerai peut-être un petit peu, certainement tout à l'heure, le shiatsu a été fait le plus proche possible de la séance de chimiothérapie. Et on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus, qu'on était meilleur, hein, y a pas de problème, dès qu'on si on intervenait tôt. Alors, quelques réserves. Les réserves n'ont pas pour objectif de justifier quoi que ce soit, mais simplement pour vous montrer qu'on aurait peut-être été un petit peu plus pertinent dans d'autres conditions de travail. Alors, première réserve, c'est qu'aucune salle n'était attitrée. Je travaillais un petit peu partout, il m'est arrivé de travailler sur les banquettes pendant les perfusions de chimiothérapie, donc avec 5 ou 6 personnes autour. Donc classiquement, un shiatsu, ça se pratique au sol, hein, pendant une heure et demie avec notre receveur. Donc pas forcément top, difficile d'investir un lieu dans la mesure où on n'en avait pas à l'hôpital. Ensuite, je viens de vous dire que traditionnellement, le shiatsu, on le pratique au sol. Il était hors de question d'aller mettre les patients au sol au sein de l'hôpital. Donc, j'ai travaillé dans des conditions parfois rock'n'roll, mais bon, ça s'est fait quand même. Travail sur table, travail une fois sur un brancard, sur un patient qui était trop douloureux, qu'on n'a pas pu transférer sur une table. Donc, des conditions pas forcément idéales pour nous en tant que praticiens shiatsu. Ensuite, il est arrivé qu'il y ait des séances pendant la perfusion de chimiothérapie. Avec bien entendu toutes les tubulures qui étaient là, c'est pas quelque chose qui est très aidant, mais on n'avait pas d'autre choix pour ce type de séance. Ensuite, il y avait la présence de la chambre implantable, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Eh bien, cette chambre implantable est placée sous une des deux clavicules, et bien entendu, il n'était pas question d'aller bricoler quoi que ce soit sur cette zone, donc toute une zone qui était vraiment interdite pour pratiquer les pressions. Et puis, l'hôpital, c'est un lieu de permanent, de passage. Hein, ça fait du bruit. Ce n'est pas forcément les conditions optimales pour travailler. Alors, je vais vous présenter deux cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est un monsieur de 61 ans qui avait un cancer de l'œsophage avec des métastases au niveau du foie, des surrénales et puis questionnement sur métastases au niveau du poumon. On n'en était pas tout à fait sûr, mais... un petit peu plus tard, dans l'avancée du protocole, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet des métastases pulmonaires. C'est un monsieur qui avait des séances de chimiothérapie une fois toutes les 3 semaines. 6 séances de chimiothérapie étaient prévues dans son protocole. Il n'y avait pas de casque réfrigérant. Et il y a eu 3 séances de chimiothérapie avant la prise en charge shiatsu. Alors, les symptômes qu'il nous a décrits, donc il y avait une chute des cheveux, des nausées, des vomissements, fatigue physique, fatigue psychologique. Il y avait de la fièvre, des problèmes buccaux, une impression de sentir la chimio, une toux nocturne et des douleurs au niveau de la fesse et de l'épaule droite. Alors, je vous ai listé un petit peu tous les symptômes qu'on a pu avoir et la cotation surtout que ce monsieur nous donnait. Alors, dans la première colonne, vous avez ici toutes les cotations des effets secondaires avant prise en charge shiatsu. Et vous voyez le déroulé, donc shiatsu 1, shiatsu 2, shiatsu 3, il y a eu 3 séances. Et les résultats moyens après les prises en charge shiatsu. Alors, sur la chute des cheveux, regardez, c'est très intéressant. On est parti avec une gêne occasionnée à 8 et on est arrivé à une gêne occasionnée à la fin à 8. Donc, globalement, résultat 0%. J'ai été très, très, très mauvais sur ce coup-là. Mais je vous rassure, ce n'est pas le seul. Chez malheureusement tous nos patients, ça n'a pas marché du tout. Ensuite, les chiffres qui sont intéressants, les vomissements, c'était une gêne qu'il cotait à 3, donc une cotation quand même relativement faible. Après une séance de shiatsu, on est arrivé à 0 gêne, donc 0 vomissement, et ça c'était plutôt pas mal, un résultat 100% d'amélioration. La fatigue psychologique, on est resté une cotation extrêmement importante à 10 au départ, et on est arrivé à 10 à la fin de notre prise en charge. C'est un monsieur qui était au bout du bout du bout. Je vous donnerai tout à l'heure son ressenti. Il venait parce qu'il avait, ça lui apportait quand même du bien, tout en sachant que on ne pouvait malheureusement rien faire pour lui. C'est un patient qui est décédé assez rapidement. Les problèmes buccaux ont été résolus de manière assez rapide, et ça c'était intéressant parce que ça lui a permis de se réalimenter très rapidement et donc de diminuer un petit peu la fatigue physique. Et puis l'impression de sentir la chimiothérapie, c'est le seul à m'avoir décrit cet item. Et très rapidement, voyez, en 2 séances, on est passé d'une cotation à 10 à une cotation à 0. Globalement, sur 90 points, c'est un monsieur qui avait évalué ses effets secondaires avant prise en charge shiatsu à 78. Donc 78 sur 90, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis on arrive à 48,7 en fin de prise en charge shiatsu, une amélioration de 37,6%. Autant vous dire tout de suite que c'est un très mauvais chiffre. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai mis. C'était sans doute le plus mauvais résultat qu'on ait pu obtenir. La durée de la fatigue physique chez ce patient était de 15 jours sans prise en charge shiatsu. Alors vous vous souvenez, c'était une prise en charge shiatsu, donc 3 semaines de chimiothérapie toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que le monsieur est à peu près bien pendant 8-10 jours avant la séance de chimiothérapie suivante. Après prise en charge shiatsu, 12 jours de fatigue, donc 20% d'amélioration. C'est très mauvais. Alors, son ressenti. C'est un monsieur qui m'a dit que le shiatsu l'aidait un petit peu à supporter cette... J'ai mis horreur entre guillemets parce que ce n'est pas le mot qu'il a employé, mais j'avais décidé aujourd'hui d'être pas trop grossier. C'était quand même un petit peu plus violent que ça, les mots qu'il avait employés. Donc, à cette horreur de maladie, je suis à bout, mais je peux continuer car j'ai besoin d'être un peu détendu. Donc, vous voyez, simplement, on n'était pas dans un objectif forcément thérapeutique, mais simplement de détente avec ce patient. Le cas clinique numéro 2, alors c'est une dame de 46 ans avec un cancer du sein et questionnement également chez elle pour des métastases osseuses. Une séance de chimio toutes les 3 semaines, 6 séances de chimio étaient prévues, elle portait un casque réfrigérant et elle a eu une seule séance de chimiothérapie avant que l'on commence à travailler avec elle. Alors je vous ai mis ce cas pour plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes sur les chiffres. Alors, chute des cheveux, vous voyez, une fois de plus, ce n'est pas forcément quelque chose de douloureux, la chute des cheveux, mais on était à 10. Bon, on est arrivé gentiment à 3 au bout de 5 séances. Non pas que ses cheveux aient repoussé, hein, ce n'est pas ça du tout, mais je crois qu'elle avait accepté le fait, en fin de compte, de ne plus avoir ses cheveux. Et c'est une dame qui m'avait dit quelque chose, c'est la seule qui me l'ait dit. Alors, ce cancer du sein, elle me dit un jour, vous vous rendez compte, j'ai perdu ma féminité du fait de l'ablation du sein. Et en plus de ça, non seulement il y avait la chute des cheveux, mais il y avait la chute de tous les poils, y compris les poils pubiens. Et pour elle, c'était quelque chose d'absolument dramatique, le fait, et ça, moi, je n'avais pas du tout percuté, hein, qu'il puisse y avoir en effet cette perte réelle de féminité, le cancer, l'ablation du sein, mais également la perte de ses poils pubiens. Donc, un item assez intéressant. Ensuite, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur les items nausées et vomissements qui étaient cotés à 8 au départ. Donc, premier shiatsu, j'arrive à 0. Donc, j'étais plutôt content de moi, à vrai dire. Hein. Même si on reste très humble dans notre prise en charge, j'avais trouvé que j'avais été plutôt pas trop mauvais sur ce coup-là. Et puis, shiatsu 2, regardez, elle me cote à 10. Alors là, grande panique, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire une connerie quelque part, j'ai dû oublier quelque chose. Bon... un peu compliqué pour essayer de trouver l'analyse. Bon, troisième shiatsu, on retombe à 0. Et puis, on est resté à 0. Alors, moi, ça m'avait interpellé. Je me suis demandé pourquoi il y avait cette remontée brutale des chiffres. Hein, c'était assez absolument impressionnant. Et on a réétudié tout le dossier avec toute l'équipe. Et puis, ben, on n'a rien trouvé. Et c'est cette dame, en fin de compte, qui nous a donné la solution. Il s'était passé... entre le shiatsu 1 et le shiatsu 2, cette dame était venue en chimiothérapie un vendredi. C'était un jour où j'étais en formation, donc je n'ai pas pu lui faire de séance de shiatsu ce jour-là. Ensuite, samedi, dimanche, bien entendu, je n'étais pas là. Et je l'ai revue seulement le lundi ou le mardi. C'est-à-dire qu'entre la chimiothérapie et la prise en charge shiatsu, s'est écoulé 3-4 jours à peu près. Et c'est cette dame qui m'a fait réellement prendre conscience que plus on intervenait... proche de la séance de chimiothérapie, plus on était pertinent dans notre prise en charge. Donc, c'était quand même très intéressant qu'elle nous refasse ce retour. Mais je vous avouerai, je n'ai pas été complètement tranquille hein, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette remontée brutale des chiffres. La fatigue physique, on est passé d'une cotation à 10 à 0 en à 5e séance, donc c'était plutôt pas mal. Les problèmes buccaux ont été réglés très rapidement, même chose avec un herpès. Un herpès qui est coté à 10 en début de prise en charge shiatsu, qui est tombé 0 à la première prise en charge. Donc globalement, on était sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 80. 80 points, elle mettait 75 points d'effets secondaires avant prise en charge shiatsu, et on arrive après notre prise en charge à 23,6, donc une amélioration de 68,5%. Là, on est plutôt pas mal. On était dans un petit, tout petit peu au-dessus de la moyenne. C'est une dame qui avait une fatigue physique de 8 jours sans prise en charge shiatsu, et on est tombé à une demi-journée de fatigue après prise en charge, donc un gain de 93,8%. Et son ressenti... Alors elle m'a dit que globalement, elle s'est sentie mieux dès la première séance de shiatsu, qu'elle avait du punch, et surtout qu'elle appréhendait moins les prochaines séances de chimio, parce qu'elle savait que ça allait, comment ça allait se passer, et ça l'a rassurée, elle trouvait ça très soulageant. Et elle me disait que c'était mieux quand le shiatsu avait lieu tout de suite après la chimiothérapie, sans attendre 3 ou 4 jours. Et en conclusion, elle disait, je me sens vraiment bien, je suis très satisfaite. Alors, une petite discussion générale. Je vous ai listé un petit peu tous les items qu'on a pu trouver, tous les symptômes, les effets secondaires. Donc, de la fatigue physique, il y en avait tout le temps. Nausées, chute des cheveux, des items très importants. Fatigue psychologique également très, très lourd. Ensuite, venaient les vomissements, les troubles de la bouche, constipation, les parasthésies, les troubles de la peau, et puis tous les autres effets que j'ai regroupés sous une seule catégorie. Donc, de manière un petit peu plus détaillée, voici tous les items qui ont pu être observés. Avant prise en charge là-dessous, globalement, donc on arrivait à 6,5 effets secondaires par patient. Et on tombe à 2,3 après la prise en charge shiatsu, donc une amélioration de 64,4%, ce qui, à mon sens, est un résultat plutôt, plutôt intéressant et encourageant. Un petit tableau sur la fatigue physique. Donc, globalement, sur les 16 patients qui sont entrés dans le protocole, on était à 8,4 jours de fatigue physique avant la prise en charge shiatsu, et on est tombé à 2,8 jours, une amélioration de 66%, ce qui n'est pas mal du tout non plus. Alors, les symptômes les plus fréquents. Donc, les nausées, 15 patients étaient nauséeux, tous ont vu cet effet diminuer en intensité, en durée, voire complètement disparaître. Globalement, une amélioration de 68%, un bon résultat. Les vomissements. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un travail systématique sur le méridien de l'estomac qui était fait, et on est arrivé à une amélioration de 82,6%. Je vous ai mis cas numéro 16 entre parenthèses. C'est un monsieur dont je voulais vous parler un petit peu. C'est un patient qui avait un cancer du côlon et qui, après chaque séance de chimiothérapie, avait des vomissements, à peu près 8-10 vomissements par jour. Et ça durait pendant 8, 9, 10 jours après la séance de chimiothérapie. C'est-à-dire que dès qu'il prenait un verre d'eau, il allait le vomir, à la limite. Donc vous imaginez comment ce monsieur pouvait être extrêmement fatigué. Donc vous voyez, séance de chimiothérapie, une dizaine de jours à vomir, donc être pas bien du tout. Ensuite, il était à peu près bien pendant une semaine, et puis il recommençait à revomir à peu près quelques jours avant la chimiothérapie, parce qu'il savait comment ça allait se passer. Donc j'ai été appelé un petit peu en catastrophe parce que ce monsieur a eu quelque part la bonne idée de vomir pendant la consultation. Il arrivait à l'hôpital, il vomissait déjà dans l'ascenseur. Il a vomi pendant la consultation et donc on a fait un travail de prise en charge shiatsu assez rapide. Et à la première séance de shiatsu, donc vous voyez, il était passé d'à peu près 70-80 vomissements après chaque séance de chimiothérapie. Première séance, on est tombé à 3 vomissements après la séance de chimiothérapie, après terminée. Donc quelqu'un qu'on a pu réalimenter très facilement. Et puis après, on était resté sur 1-2 parfois. Donc globalement, quelque chose de pas mal du tout. Et en tout cas, il a retrouvé un confort de vie extrêmement intéressant, même si on n'a pas guéri son cancer. Je vais aller vite parce qu'on m'a dit que moi, c'est plus que 5 minutes. La chute des cheveux. Donc 13 patients étaient gênés par ce symptôme. Alors, c'est vraiment l'image, c'est le signe extérieur de la maladie, hein, cet item. Les résultats ont été extrêmement mauvais. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les résultats ont été extrêmement mauvais sur cet item-là? Alors, il y a plusieurs choses qui interviennent. Dès que la chimiothérapie est commencée, le processus de chute des cheveux est enclenché. Donc, à mon sens, il serait très intéressant, ça n'a pas pu se faire, mais c'est peut-être des pistes pour les praticiens shiatsu, si vous avez envie de travailler là-dessus, de réfléchir un petit peu à une prise en charge shiatsu que l'on pourrait faire en amont de la chimiothérapie. Ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, on sait en médecine énergétique orientale qu'il y a une notion de peur qui est reliée au méridien du rein. Le méridien du rein, c'est le méridien qui va gérer tout le système, les cheveux. Donc, il est bien évident que quand vous annoncez à un patient qui a un cancer, forcément, il y a une peur qui se développe et qui va au détriment de cette énergie du rein. Donc, là aussi, je crois qu'il serait très pertinent de travailler vraiment en amont pour qu'on puisse essayer d'enrayer ce processus. Ensuite, la part du casque. Alors, est-ce que le shiatsu a pu potentialiser l'effet du casque? Honnêtement, je ne sais pas du tout. On n'a pas eu de retour par rapport à ça. Donc, globalement, une amélioration de 20%, hein, c'est extrêmement, extrêmement mauvais. Les troubles de la bouche étaient surtout des problèmes d'aphte, de sécheresse buccale. Il est bien évident que si on règle les problèmes buccaux le plus rapidement possible, ça permet une réalimentation. Et qui dit réalimentation dit obligatoirement diminution de la fatigue physique, une amélioration de 78%. La constipation, ça a été un résultat intéressant avec des résultats parfois spectaculaires. On a eu des arrêts dès la première séance de shiatsu. Les paresthésies, là aussi des résultats assez rapides, avec une amélioration de 79%. Les troubles de la peau, essentiellement une sensation de sécheresse, des résultats plutôt pas mal non plus. La fatigue psychologique. Alors c'était un item qui était extrêmement difficile à mesurer parce qu'il y a tout un tas de choses qui interviennent dans cette fatigue psychologique. On avait remarqué quand même une sorte de parallèle entre la courbe de la fatigue physique et la courbe de la fatigue psychologique. Il est évident que si les gens sont physiquement fatigués, il y a forcément une répercussion au niveau psychologique. J'ai pratiquement fini. Alors, les bilans énergétiques du hara, pour faire très vite et très simple, globalement, sur l'ensemble des séances, on a trouvé le méridien du foie qui était déséquilibré dans 51% des cas. Ça s'explique très bien par le fait que l'élimination des médicaments de chimiothérapie se fait essentiellement par voie hépatique. Donc, c'était assez logique. Ensuite, on a retrouvé le méridien de l'estomac, 21% des cas. Donc, ça justifie un petit peu ce travail systématique pour essayer d'enrayer ces problèmes de... des problèmes de nausées, ces problèmes de vomissement. Et vous retrouvez le rein ici à 19%. Donc vous voyez quand même quelque chose d'important. Et c'est là qu'il aurait fallu vraiment travailler de manière anticipée pour essayer d'enrayer ce souci. En conclusion, ben globalement, tous nos patients étaient satisfaits de cette prise en charge. Il y a eu une diminution des effets secondaires de la chimiothérapie par le shiatsu, donc on peut répondre par l'affirmative à la question qu'avait posée le docteur Coster-Vidal sur la pertinence ou non de cette prise en charge. Et on a montré qu'il était vraiment judicieux d'intervenir le plus tôt possible, alors soit juste avant la chimiothérapie, soit pendant, même si ce n'est pas l'idéal, mais bon, s'il n'y avait pas d'autre possibilité, il fallait le faire, ou en tout cas le plus proche possible après cette séance de chimio pour être le meilleur possible. Les résultats sont relativement peu satisfaisants, même pas du tout en ce qui concerne le symptôme chup des cheveux, on en a un petit peu parlé, ça nécessiterait une prise en charge en amont, c'est compliqué à mettre en place, honnêtement. Donc, je vous disais que 16 personnes sont entrées dans le protocole, mais en tout, ce sont 150 personnes qui ont bénéficié de séances de shiatsu, en tout cas pendant l'époque où j'étais, puisque maintenant il y a quelqu'un qui a pris le relais à ma place. Globalement, sur les 500 et quelques séances qu'on a fait, on a des résultats qui sont identiques à un demi-point près. Donc, vous vous souvenez, on était à 66,4% d'amélioration. On est descendu un tout petit peu, on est globalement à 65,5-66%. Donc, des chiffres qui sont tout à fait reproductibles et c'était assez intéressant. Et en conclusion, en général, moi j'ai envie de dire que le shiatsu, eh bien, il peut complètement s'intégrer dans un système de soins hospitalier. Il prend place, il a entièrement sa place dans le projet de soins du patient, à condition de remettre notre patient dans son projet thérapeutique, au centre de son projet thérapeutique. Il faut bien que nous, on soit conscients de nos limites en tant que praticien shiatsu. On ne va pas jouer aux apprentis sorciers, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule. Et moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de dichotomie avec la médecine officielle, mais je pense qu'on peut travailler et on devrait travailler en bonne complémentarité, en bonne intelligence, tout ça pour le bénéfice des personnes qui nous sont confiées. Alors, cette conférence a fait l'objet de trois publications. Il y en a une qui est parue dans une revue de kinésithérapie en 2007. Nos amis anglais ont souhaité m'éditer en automne 2007 également. Et puis, l'association suisse de Shiatsu a également fait une publication en 2010. Si vous souhaitez réagir à ce petit exposé, moi je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de mon école. Dans la rubrique contact, vous pourrez me laisser un petit message pour me dire que j'étais particulièrement mauvais. Et je vous répondrai, hein, promis. Et si vous souhaitez également trouver l'article de cette conférence, vous pouvez le trouver également sur le site de mon école, hein, Formation Shiatsu Bordeaux, dans la rubrique publication. Et là, vous aurez tous les chiffres que j'ai pu vous donner, vous pouvez les retrouver noir sur blanc. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour les suivre. Voilà, et je vais terminer. Est-ce que je suis dans le timing ? Yes, nickel. Par une petite formule qu'on utilise dans nos cours de shiatsu de temps en temps, une formule de remerciement où tout le monde se nourrit en fin de compte de l'enseignement. Il n'y a pas un maître qui fait un enseignement, mais l'enseignant reçoit également beaucoup, beaucoup de choses de la part de ses étudiants. Donc moi j'ai envie de vous dire Arigato Gozai Yamashita, qui signifie je vous remercie de l'enseignement que vous m'avez apporté aujourd'hui. Merci à vous.
Merci, on n'a pas que du shiatsu, il y a aussi des ateliers senteurs et donc je laisse la parole à Alexia Blondel qui est aromathérapeute.
Donc bonjour à tous. Donc je vais compléter en fait la conférence qui vient d'avoir lieu par rapport au shiatsu avec les huiles essentielles qui ont donc été intégrées à l'ERI, donc espace de rencontre et information, maintenant depuis 2012. Et les huiles essentielles ont également fait l'objet d'intégration dans les services depuis l'année dernière. Et d'ailleurs, ça devait être à peu près à la même année, l'année dernière, on a eu le plaisir avec deux cadres de santé, donc c'était Chantal Montagne et Catherine Boisseau, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui, je pense, sont toujours très motivées pour pouvoir diffuser sur les huiles essentielles et leur potentiel. Et avec elle, on avait obtenu le prix Annie Davray, qui était le premier prix infirmier, justement pour nous encourager à continuer à intégrer les huiles essentielles au milieu hospitalier et donc en tant que soin de support. Voilà. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. J'ai une licence de biologie, donc à la base, je suis passionnée par la botanique. Ensuite, j'ai préparé le concours de professeur des écoles, donc je suis institutrice et ça a été mon premier métier. Et c'est vrai que le monde des plantes me manquait quand même. Enseigner, ça, c'est toujours quelque chose que j'adore. Mais voilà, parler des plantes, aller plus loin dans leur potentiel, j'avais envie de développer ça. Donc j'ai entamé une formation en aromathérapie à l'école du docteur Penoël, qui est donc un grand médecin aromathérapeute qui m'a fait bénéficier de sa connaissance et de son expérience. Actuellement, donc, de toute façon, c'est un médecin qui exerce encore et qui voit des patients en aromathérapie. Et puis j'ai aussi complété avec un DU, diplôme universitaire, à l'université de Paris 13, qui donc permet de se former à la phytothérapie et à l'aromathérapie. Voilà. Ensuite, il y a plein d'autres formations annexes que j'ai réalisées parce que c'est un domaine qui évolue tout le temps. On a régulièrement des publications scientifiques, de plus en plus depuis une dizaine d'années. Et donc, il faut toujours être au courant un petit peu des nouveautés qui peuvent se passer dans ce domaine. Bon, déjà, qu'est-ce qu'une huile essentielle ? Alors, on va faire un petit test. Vous allez lever la main si vous connaissez les huiles essentielles. Bon, super. Donc, elles sont très... elles sont célèbres. Est-ce que vous utilisez les huiles essentielles au quotidien ? Si oui, vous pouvez lever la main. D'accord. Donc, on voit bien que l'aromathérapie, c'est quand même quelque chose qui se développe, qui devient de plus en plus connu. Par contre, là où il faut être prudent, c'est par rapport à l'utilisation, que ce soit dans le cadre de la cancérologie ou même au quotidien pour tout le monde. Donc le métier que j'ai créé à l'issue des études que j'ai repris, c'est vraiment le fait d'être spécialiste en huile essentielle et de pouvoir apporter à toutes les personnes qui vont suivre les ateliers, les voyages olfactifs qui sont réalisés au CHU de Poitiers, mais également le travail en collaboration avec avec notamment les médecins. Toutes ces personnes-là vont bénéficier en fait d'une expertise, hein, d'une connaissance en aromathérapie afin de les utiliser au mieux. Donc déjà, bon, on sait qu'une huile essentielle, ça ne fait pas partie des médicaments. C'est vraiment une matière première. En ça, on a une législation derrière. Et par exemple, sur un flacon d'huile essentielle, vous ne verrez jamais écrit « favorise la digestion »,« antinauséeux ». On ne peut pas utiliser ces termes-là qui, au niveau de la législation, nous feraient rentrer l'aromathérapie et les huiles essentielles au niveau, comme si c'était perçu comme un médicament. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles peuvent être utilisées de différentes manières. Hein, donc, on verra par la suite un petit peu comment ça se passe. Déjà, c'est au niveau de la photosynthèse. Donc, à la base, c'est pour ça que mon parcours est pas anodin, puisque c'est au niveau des plantes que tout commence. Et sans soleil, déjà, on ne pourrait rien faire. On ne pourrait pas avoir d'huile essentielle, puisque c'est dans les feuilles que se passe la photosynthèse. Et cette photosynthèse est à la base de la production de tout ce que va produire une plante, et notamment les essences, donc ces particules aromatiques. Dans le monde végétal, toutes les plantes ne sont pas des plantes aromatiques. Par exemple, une fougère n'aura pas d'odeur, parce qu'elle est trop ancienne. Hein, et les plantes aromatiques sont quand même un petit peu plus récentes. Elles sont apparues sur Terre. Par exemple, les résineux, les pins sylvestres sont apparus il y a 360 millions d'années, tout en sachant que la Terre a 4,5 milliards d'années et que les premières bactéries apparues, c'était il y a 3,5 milliards d'années à peu près. Donc vous imaginez quand même qu'elles sont récentes et nous on est aussi très très récents. Voilà. Les plantes à fleurs, c'était ce que je disais dans la salle d'à côté il y a quelques années quand je présentais, j'étais animatrice scientifique ici et j'étais sur une exposition sur les dinosaures et j'expliquais que les plantes à fleurs, eh bien, les premières sont apparues il y a 120 millions d'années. Donc les plantes à fleurs, on imagine, c'est toutes celles qui sont les plus évoluées, type ylang-ylang, géranium, etc. Et qui nous amènent sur les huiles essentielles fleuries. C'est aussi, c'est très très évolué. Hein. Donc c'est au niveau de la distillation qu'on a une concentration qui va apparaître. Donc là en fait, on met les plantes dans une cuve et la vapeur d'eau va casser les poches à essence dans lesquelles la plante a sécrété cette essence aromatique. Et ensuite, on récupère ça. Donc ici, vous avez l'huile essentielle et là, vous avez l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est de l'eau florale, ça coûte moins cher, c'est aussi en plus grande quantité que l'huile essentielle, le rendement est meilleur et c'est beaucoup moins dosé. Voilà, c'est surtout des molécules d'eau. Alors que les huiles essentielles, ce sont vraiment des particules aromatiques qui vont être lipophiles, c'est-à-dire qui vont avoir une affinité avec l'huile et non pas l'eau. D'où le fait qu'il faut apprendre à utiliser les huiles essentielles car elles ne se mélangent pas à l'eau. Hein, donc, si par exemple vous mettez une goutte d'huile essentielle dans une tasse, eh bien, il y aura une goutte d'huile essentielle qui se promènera et qui surnagera. Donc, il faut trouver des moyens pour homogénéiser tout ça. Alors, comment on les utilise ? On les utilise de trois manières, tout en sachant que en cancérologie, on va être sur la voie respiratoire, diffusion sèche ou humide. Donc ça dépend des services et ça dépend comment c'est mis en place, puisque de toute façon, il faut que l'hygiène valide les diffuseurs d'huile essentielle utilisés. À partir de là, avant que l'aromathérapie arrive, ça demande vraiment quand même du temps et beaucoup de démarches. Et donc c'est ce que Chantal Montagne et Catherine Boisseau ont fait aussi dans leurs services respectifs. Donc c'est en hématologie et en soins palliatifs que déjà vous pouvez avoir des huiles essentielles qui sont diffusées et qui peuvent être appliquées sur la peau, surtout en soins palliatifs, parce que chaque service va avoir sa spécificité par rapport aux pathologies. Hein, et donc en hématologie, il n'a été autorisé que la voie respiratoire ou le fait de la voie olfactive. Voilà. Parce qu'on craignait éventuellement des interactions avec les traitements. Bon, ça, après, la voie cutanée, elle est beaucoup plus délicate, mais de toute façon, une huile essentielle va être diluée dans une huile végétale, puisque c'est là qu'elle va avoir son affinité. À partir de là, en fonction de la dilution que vous réalisez, on n'aura pas forcément les mêmes effets. Donc ça, on est à 5%, on va être dans le domaine du bien-être. Et la voie digestive, aussi appelée voie interne. C'est peut-être celle que vous utilisez parce que nous, Français, nous sommes très friands de cette voie, en sachant que ce n'est pas celle que les Allemands et les Anglais préfèrent. Eux, ils sont plus sur la voie olfactive et la voie cutanée. Mais en France, on aime beaucoup prendre les huiles essentielles par la voie interne. Donc, ce n'est pas rare de trouver dans les parapharmacies ou pharmacies des petits conseils où on vous dit une goutte d'huile essentielle sur un sucre, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même la voie qui est la plus délicate par rapport au traitement. Parce qu'on va avoir une interaction avec les traitements possibles, étant donné que c'est le foie, hein, comme on l'a vu, qui gère la prise des médicaments et des chimiothérapies. Mais c'est aussi le foie qui va métaboliser les huiles essentielles, les molécules qu'il y a dans une huile essentielle. Donc il faut être assez prudent. Déjà, on a beaucoup à faire avec les deux premières, parce que les deux ont un impact olfactif. Et ça, c'est très positif. Alors, les propriétés. Eh bien, les propriétés sont nombreuses. Hein. On a des actions calmantes, relaxantes. Donc ça va être ce qui va être largement apprécié par les patients, parce qu'on a vu qu'au niveau, y a un besoin de soutien psychologique et au niveau aussi par rapport à la fatigue. La fatigue, ça se gère de deux manières. Parce que quand on est fatigué par un traitement, c'est aussi parce qu'on est épuisé nerveusement. Donc, il faut se détendre, se relaxer et se recharger. On a vu par rapport au méridien du Rhin l'importance de cette énergie-là. Et il y a des huiles essentielles en fait, qui peuvent, ne serait-ce que par le biais de l'olfaction, favoriser la production de cortisol. Et ce cortisol, il est sécrété par les surrénales qui sont au-dessus des reins, et ça va être vraiment une hormone qui va être marqueuse du stress, hein. Donc dans les études scientifiques par rapport aux huiles essentielles, souvent le cortisol salivaire est dosé, et on va avoir des résultats qui vont pouvoir donc aller en faveur de l'usage des huiles essentielles en complément de tout ce qui va être mis en place en chimiothérapie pour éviter la fatigue par ce biais-là. Donc, il y a déjà beaucoup à faire. Voilà. Après, on a aussi des propriétés antalgiques et assainissantes et anti-infectieuses, parce que toutes les huiles essentielles ont des propriétés antibactériennes et antivirales. Donc ça, il y en a qui sont quand même plus spécifiques dans le domaine, hein, elles sont réparties en groupes, mais c'est quand même, je pense, une grande chance d'avoir cette propriété-là, qui n'est peut-être pas dans un premier objectif quand on va intégrer les huiles essentielles dans les services, mais par rapport aux maladies nosocomiales, on a des bons espoirs pour justement essayer d'assainir le milieu. On sait que les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques et aux produits aussi désinfectants. Donc diffuser des huiles essentielles serait déjà une première prévention dans ce domaine-là. Ça, je ne l'invente pas, hein. Il y a plein d'études qui ont été publiées là-dessus. Alors, je ne vous ai pas fait le référentiel de toutes les études parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en les lisant, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment une piste qui était à explorer. Alors, on a une action aussi sur la circulation sanguine. Bien sûr, là, il faudra passer par la voie cutanée. Ce n'est pas en respirant une huile essentielle qu'on va favoriser la circulation sanguine. Les voies respiratoires, c'est aussi en lien avec tous les problèmes qu'il va y avoir au niveau des charges virales dans l'atmosphère. Et même au niveau hivernal, on a vraiment des chances d'essayer de passer un meilleur hiver quand on a un système immunitaire qui est meilleur. Donc, on a aussi une action sur l'immunité. Sur le système nerveux, on va le voir un petit peu plus en détail. Et sur la sphère digestive, donc là, ça rejoint l'effet secondaire qui est justement avec cette propriété-là, anti-émétique. Il y a une étude qui est sortie qui a montré que respirer de l'huile essentielle de citron ou de l'huile essentielle de menthe poivrée permettait vraiment de réduire les sensations de nausées après les traitements. Voilà. Il y avait aussi l'huile essentielle de gingembre qui était citée. Maintenant, ce sont quand même des huiles essentielles. Même si elles sont en vente libre, il faut apprendre à les utiliser. Parce que la menthe poivrée a vraiment des précautions d'emploi à respecter. C'est une huile essentielle avec des molécules qui se fixent sur les récepteurs thermiques de la peau et qui vont venir envoyer au cerveau un message comme quoi il faut qu'il envoie du froid sur la zone où l'huile essentielle a été posée. Ça veut dire que si vous badigeonnez d'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez tomber en hypothermie. Voilà, alors c'est évidemment pas ce qui est recherché. Par contre, si on a un usage local très précis, voire même juste un usage olfactif, eh bien on va avoir de grands potentiels et un grand bénéfice. D'où l'importance d'être formé à l'usage de l'aromathérapie. Alors, en cancérologie, plus précisément, il y a quand même des objectifs clairs. Bah, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, voilà, encadrer les patients. Hein, donc, c'est une éducation à la santé. Au début, j'hésitais un peu à utiliser ce mot-là. Je me suis dit, ils vont croire que je me suis trompée de salle, que je suis restée dans ma salle de classe. Et non, vraiment, je pense que je ne me suis pas trompée. C'est très important d'apprendre aux personnes à utiliser les huiles essentielles. Elles ne sont pas vendues avec un mode d'emploi. Donc, bah, il faut venir se former. Il faut connaître le bon usage. Donc, ça fait partie des gestes simples et aussi toutes les précautions d'emploi. Parce que c'est vrai que, eh bien, par exemple, quand on est en cancérologie avec un cancer du sein hormonodépendant, il va y avoir des huiles essentielles à éviter. Parce que dedans, il y a des phytoestrogènes et ça peut venir en interaction avec justement ces cellules qui n'ont pas besoin de phytoestrogènes. Alors ça, eh bien, c'est détaillé dans les ateliers pour les patients qui s'appellent les voyages olfactifs. Ce sont des ateliers niveau 1 où les personnes en fait, qui découvrent l'aromathérapie, parce que beaucoup de personnes l'utilisent mais toutes seules, entre guillemets, automédication. Même si ce n'est pas un médicament, on a vu que les propriétés sont quand même intéressantes et pas anodines. Donc, il vaudrait mieux être encadré plutôt qu'être tout seul à essayer de faire ces mélanges. Sur Internet, il circule beaucoup de choses qui ne sont pas forcément toujours, c'est pas toujours des bons conseils. Voilà. Et puis, vous avez même des huiles essentielles qui pourraient être interdites parce que dangereuses avec des molécules neurotoxiques. Donc là, évidemment, on va complètement les éviter et on ne les conseillera jamais aux patients ni même à une personne qui n'est pas malade. Hein. Mais vous avez parfois sur Internet des producteurs qui ne sont pas forcément toujours complètement formés et qui proposent ce genre de produits en ligne, en achat libre. Voilà. Donc il faut avoir la liste et être bien au courant. Ça, c'est un moment important aussi de l'objectif d'intégrer les odeurs, hein, l'olfaction au CHU. Ça serait vraiment de favoriser l'échange, la convivialité entre les patients, se sentir vraiment entouré et écouté. Parce que pendant mes ateliers olfactifs, ce n'était pas l'objectif numéro un, mais il y a vraiment eu des amitiés qui se sont créées et des échanges entre les patientes. Alors ça a toujours été pour moi un grand plaisir de voir que d'un atelier sur l'autre, parce que ça a lieu tous les mois, on se dit bonjour, on se donne des nouvelles, et c'est un moment où les patients peuvent aussi échanger sur leur maladie. Vivre des expériences olfactives et aromatiques, un grand moment d'évasion. On part toujours de la botanique, de la plante, pour aller vers l'huile essentielle, parce que la plante est toujours quand même à la base, c'est elle qui a produit l'essence aromatique, et il faut bien sûr ne jamais la perdre de vue, même quand on regarde un flacon et qu'on utilise l'huile essentielle. Atténuer les effets secondaires des traitements, ça c'est sûr. Donc on est surtout sur plusieurs effets secondaires qui vont être ici un petit peu... En fait, l'idée c'est d'obtenir un équilibre émotionnel et corporel. Donc là, on rejoint le shiatsu parce qu'au niveau énergétique, on a aussi une action des huiles essentielles rien que par la voie olfactive. Et après, rien ne nous empêche d'imaginer l'application de certaines huiles essentielles, hein, sous certaines conditions bien entendu, sur des méridiens, des points d'acupuncture pour favoriser justement la circulation de cette énergie. Et déjà, quelques recherches sont en cours dans ce domaine. Alors, on va diminuer les douleurs et le stress. Alors ça, de toute façon, c'est toujours interrelié. Plus on est stressé et plus on a mal et plus les effets secondaires des traitements vont être importants. Voilà. Et bien sûr, prévention des infections, je l'oublie jamais, je le mets toujours dans un coin parce que quand les huiles essentielles nous accompagnent au quotidien, elles vont quand même également entretenir hein, et favoriser notre système immunitaire. Donc évidemment, on va être moins malade au niveau des petites infections. Alors, les actions aromatiques mises en place, j'en ai déjà parlé, diffusion d'huile essentielle dans les services, formation du personnel requise. Alors ça, c'est très important parce que j'ai lu une étude récemment comme quoi des infirmières dans un service avaient obtenu de bons résultats sur la diffusion d'huile essentielle de lavande par rapport au sommeil. Mais le fait que certaines infirmières avaient peur en fait, que les huiles essentielles puissent les intoxiquer, ça avait mis une mauvaise ambiance dans l'équipe. Et ça avait quand même montré qu'il fallait que le personnel soignant soit au courant de ce qu'était une huile essentielle, de ses risques, mais aussi de ses bienfaits. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça intéressant et je voulais vous le dire. Donc, bien-être émotionnel des patients et des soignants. J'ai encore fait une conférence d'information jeudi à l'hôpital de jour. Et c'était les aides-soignantes qui étaient concernées. Et l'idée, c'était vraiment, bon, elles se sont rendues compte qu'en diffusant, parce que c'est elles qui vont mettre les huiles essentielles dans le diffuseur, et en fait, elles vont également bénéficier de ces fragrances qui vont être au niveau de l'environnement diffusées. Donc, c'est aussi, on pense également aux soignants. En soins palliatifs, on sait qu'il y a des mauvaises odeurs, etc. Ça peut être tout à fait intéressant pour augmenter la qualité de travail. Et donc, on sait très bien que ça y aura aussi des sourires à la clé, hein, ça c'est sûr. Et puis, mise en place des ateliers aromatiques. Donc là, avant de parler ces ateliers aromatiques, le niveau 1, si vous voulez, c'est par rapport au voyage olfactif. C'est pour ça que j'ai voulu aussi ici vous montrer l'action des huiles essentielles sur le système nerveux. Ça, c'est passionnant. Il y a beaucoup de recherches qui vont être mises en place. Parce que quand on sent une odeur, eh bien, il va y avoir le bulbe olfactif ici, qui va être c'est des molécules olfactives qui vont se fixer sur un récepteur un peu comme une serrure avec une clé. Et donc ça, c'est directement interrelié au centre, au système nerveux et notamment au centre des émotions, le cerveau limbique, qui nous ouvre une porte sur notre inconscient et aussi sur nos souvenirs. Donc à chaque publication sur les huiles essentielles et ses potentiels au niveau olfactif, on a toujours deux choses. C'est soit l'odeur nous rappelle un souvenir, donc on est dans la subjectivité et il ne va pas être facile de mesurer l'impact. Est-ce que le pain sylvestre, ça nous dynamise ou est-ce que ça nous détend ? Parce que ça va dépendre un petit peu de l'expérience vécue de chacun. Et il y a également les particules aromatiques qui sont dans cette huile essentielle et qui, généralement, ont tendance à détendre, à tonifier, etc., à relaxer. Donc, il y a toujours un peu ces deux choses-là qui se discutent dans les publications scientifiques. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer un peu plus en détail. En fait, ce qui est important de voir aussi, c'est que vous avez un mucus qui, au niveau des cellules neuronales et olfactives, qui permet un petit peu d'avoir cette diffusion. Et ce mucus, il est riche en lipides. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les huiles essentielles avaient une grande affinité avec les huiles. Donc là, c'est là qu'on voit qu'une huile essentielle sent très fort. Donc il faut aussi être au courant et parfois la diluer quand c'est trop fort, justement. Et la persistance de l'odeur est liée aussi tout simplement au fait qu'il y a une grande affinité avec notre sens olfactif à nous. Alors les ateliers niveau 1 ont déjà fait l'objet d'articles dans le journal par rapport justement à toutes ces personnes qui participent une fois par mois aux ateliers olfactifs avec une thématique. Donc là par exemple, jeudi c'était sur la gestion du stress, qui est donc quand même un atelier très important et qui se suivra par un sommeil de qualité, parce que quand on est stressé, évidemment on dort mal. Donc il faut agir en amont. Et il y a toujours 4 ou 5 huiles essentielles de vue, d'un point de vue botanique. On voit les précautions d'emploi et aussi on va vraiment partir sur le monde des odeurs avec l'histoire de la plante. Et chaque personne va pouvoir faire son choix aussi entre l'huile essentielle coup de cœur ou au contraire celle qu'elle n'a pas du tout aimée parce que les odeurs ne nous laissent jamais indifférents. Alors, de l'olfaction au toucher, ça c'est le lien avec le shiatsu, mais aussi avec la réflexologie plantaire, parce que en fait, la gestion du stress, de la douleur en aromathérapie va passer par la voie olfactive, ça c'est sûr, mais aussi par la voie cutanée, diluée en massage. Des études sur l'eczéma par rapport à l'aromathérapie ont montré que sur un groupe qui avait massage avec des huiles essentielles et un autre groupe qui avait massage tout seul, sans huiles essentielles, les deux groupes avaient l'eczéma qui était réduit parce que en fait, on les avait massés, tout simplement. Donc déjà, il faut avoir le bénéfice du toucher, avoir une grande conscience. Et après, bien sûr, les huiles essentielles font leur travail, peut-être d'une manière un peu plus spécifique que par rapport à ce qu'on peut s'imaginer, par rapport à certaines pathologies. Donc bien sûr, on n'est pas dans les traitements, on est dans un accompagnement. On est dans l'idée d'atténuer les effets secondaires et de favoriser la détente, le bien-être. Donc les actions sont ciblées sur la douleur, parce que la douleur, vous avez des douleurs neuropathiques et c'est vraiment lié au système nerveux. La fibromyalgie, par exemple, on en a parlé avec une dame jeudi lors de mon atelier, c'est vraiment des douleurs, on ne sait pas trop ce que c'est. On dit fibromyalgie parce que justement, on n'a pas trouvé d'explication. En ça, quand on va agir sur une détente nerveuse, on a aussi une détente musculaire qui se met en place et c'est les mêmes huiles essentielles qui détendent nerveusement et musculairement. Et ça, c'est intéressant à savoir puisque ça nous explique un peu comment elles agissent. Et donc, on a aussi un impact sur la digestion. Et les ateliers niveau 2 qui ont vu le jour grâce à la Ligue contre le cancer, mais aussi grâce au CHU de Poitiers qui a fait le relais parce que, bah, une fois que les patients ont suivi le niveau 1, ils ont envie d'en savoir plus. Alors, quand c'est possible, quand les traitements le permettent, donc moi, mon but, c'est de sélectionner les huiles essentielles qui vont pouvoir s'adapter à tout le monde hein, et qui seront sans danger et aussi, bien sûr, de prévenir par rapport à l'usage. Eh bien, dans ce cas-là, il y a les ateliers niveau 2. Donc là, on va pratiquer l'automassage parce que les huiles essentielles, vous pouvez les avoir au quotidien avec vous. Et vraiment, en aroma, les meilleurs résultats, c'est quand on est souvent en contact avec les particules aromatiques. Donc, avoir son petit flacon près de soi, son stick olfactif, de manière à pouvoir respirer l'huile essentielle s'il faut 6 à 8 fois par jour, voire même plus quand on est en période de justement avec la chimiothérapie, dans une salle d'attente en attendant les résultats, etc. Donc ça va être en regard des organes concernés. Voilà, donc c'est là aussi où on peut rejoindre un peu le shiatsu par rapport au méridien ou directement sur l'organe. Par exemple, on va pouvoir se masser le ventre pour éviter les douleurs digestives. On sait qu'ils sont augmentés quand on est en chimiothérapie. Et puis, réalisation de mélanges aromatiques, où là, on va vraiment apprendre les dosages. Alors, c'est un petit peu de mathématiques, on recalcule un petit peu les millilitres, voilà, il y a un peu de chimie, parce qu'en aromathérapie, on est sur de la matière première, donc on doit manipuler. C'est un peu comme en cuisine. Donc, il faut mélanger, il faut sentir, il faut voir un peu ce qui nous plaît aussi. Donc, c'est aussi un outil pour mieux se connaître, parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir à une odeur. Et quand on est confronté à ces odeurs durant les ateliers, c'est aussi une découverte de soi. En conclusion, je suis dans les temps. Par leurs propriétés, les huiles essentielles ont une place de choix dans les soins de support en cancérologie. Donc, il ne reste plus qu'à diffuser l'information. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci à vous tous. Nous allons passer le micro aux personnes qui sont intéressées pour poser des questions. Il faut se lancer à l'eau. Ah, c'est parfait.
Bon, tout d'abord, merci pour cette conférence qui est vraiment très intéressante. Vous avez parlé de chimiothérapie, mais on peut ne pas avoir de chimiothérapie, avoir seulement de la radiothérapie, avoir eu avoir un sein enlevé sans avoir de chimiothérapie et avoir un stress permanent qui reste des années après. Et j'aurais voulu savoir si le shiatsu et les huiles essentielles peuvent apporter un confort.
Alors, par rapport au shiatsu, oui, incontestablement. Alors, je n'ai pas du tout parlé de radiothérapie cet après-midi parce que ce n'était pas l'objectif un petit peu de la séance. Mais moi, j'ai énormément pratiqué sur des patients, en effet, qui avaient eu uniquement de la chirurgie et radiothérapie. Et on obtient des résultats qui sont absolument extraordinaires au niveau de la détente, au niveau du bien-être. Donc, je crois qu'il faut vraiment user et abuser du shiatsu dans toutes ses composantes, quelle que soit la prise en charge que vous avez pu avoir au départ.
Alors, en aromathérapie, c'est vrai que le temps me manquait, je ne pouvais pas tout dire. Par rapport à la radiothérapie, on sait déjà qu'il y a quelques mélanges d'huile essentielle à appliquer après la radiothérapie, jamais avant, parce que on sait que ça peut quand même venir aussi rentrer en interaction avec le traitement qui va être appliqué. Alors ça, c'est vrai qu'on y va doucement parce qu'on ne veut pas non plus brûler les étapes. c'est le cas de le dire. Et donc, il faut là venir en concertation avec les médecins pour qu'ils soient au courant de ce que vous appliquez. Mais je sais qu'il y a déjà des patientes qui appliquent des huiles essentielles et des huiles végétales après la radiothérapie et que ça permet vraiment d'éviter la brûlure. Ça, c'est clair. Ça marche bien. Donc après, il faut venir travailler en équipe, en fait, hein, avec l'équipe médicale. Ça met un peu de temps à se mettre en place parfois. Il y a aussi tout le travail sur la cicatrice que vous pouvez travailler. Alors, on sait qu'une cicatrisation, normalement, ça se fait à peu près en un an. Donc, on dit qu'au-delà d'un an, on ne peut plus rien faire. Mais ma pratique clinique m'a montré que ce n'était pas le cas. Vous pouvez travailler sur, quand il y a eu ablation du sein, sur la cicatrice plusieurs années après, en fait, hein, avec application d'huile essentielle et d'huile végétale. Voilà.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Quand vous posez votre question, on sent encore une émotion très importante. Et c'est vrai que le cancer, c'est vraiment une épreuve. C'est difficile. Et même après, quand on est guéri, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est très difficile. Et peut-être qu'une prise en charge psychologique vous aiderait aussi à apprendre en fait à vivre avec cette épée de Damoclès.
Merci. Est-ce qu'une personne souhaite poser une question ?
Christian Brochet, je suis en cure de chimiothérapie, on peut dire. On parle de plus en plus dans les techniques de chimiothérapie de cibler en quelque sorte certains cancers ou certains foyers. Alors, est-ce que le shiatsu a une implication dans éventuellement une approche qui pourrait être nuancée ou différente par rapport aux chimiothérapies ciblées?
Honnêtement, moi, j'ai aucune réponse par rapport à ça. Je ne sais pas du tout ce que je peux vous apporter comme réponse. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Oui, je suis d'accord. En fait, les thérapies ciblées, c'est des molécules qui agissent sur un récepteur de la cellule tumorale. Mais donc, ça cible vraiment certaines cellules. Par contre, ces récepteurs peuvent exister sur des cellules normales. Et donc, c'est pour ça que ces thérapies ont également des effets secondaires. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le shiatsu n'agisse pas de façon bénéfique dans ce type de thérapie également.
Oui.
Merci. De manière un petit peu plus légère, sans doute, moi je n'ai pas de cancer, je vais être opérée et je souhaiterais un petit peu me prémunir contre les maladies nosocomiales. Je sais que certaines huiles essentielles peuvent m'aider. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un délai aussi? Est-ce qu'on fait ça la veille? Est-ce qu'on fait ça quelque temps avant? Je suis très, très novice par rapport à cela.
On va dire que tout dépend de l'état général dans lequel vous êtes déjà actuellement. Si vous êtes sujette aux infections hivernales, ça montre un système immunitaire. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je dirais quand même que la veille, ça fait un petit peu juste. Hein. Il faut plutôt compter, je dirais, un mois et demi d'usage d'huile essentielle. Et là, il faudrait voir par quelle interface. Hein. On a la voie interne qui, donc, n'est pas du tout dans le cadre des soins de support, mais qui est quand même un usage dont la France raffole et qui est un usage connu en aroma et qui, par rapport au système immunitaire, peut bien fonctionner. Donc, oui, je dirais un mois et demi avant l'intervention. Ce serait pas mal. Mais tout à fait, les huiles essentielles ont un travail sur le système immunitaire qui est assez incroyable. Et après, c'est l'expérience de chacun qui va le montrer. Hein. On est moins malade quand on en utilise régulièrement. Alors ça, c'est l'expérience clinique pratique. Et puis après, vous avez des études scientifiques, bien sûr, qui ont montré... vous avez des huiles essentielles qui sont mises... en lien avec des bactéries pathogènes. Et puis, on va très bien voir, comme à l'image d'un antibiogramme, les huiles essentielles qui vont agir contre les bactéries en étant bactéricide et bactériostatique. Donc on a vraiment une action au niveau du cytoplasme, parfois au niveau de la membrane cellulaire, qui se voit au microscope et qui nous encourage à utiliser les huiles essentielles en complément des antibiotiques.
Merci. Est-ce qu'un malade qui a eu le cancer de la moelle osseuse, qui a été greffé, est-ce qu'il peut avoir recours aux huiles essentielles? Il a fait aussi une réaction à la greffe, une GVH de la peau.
Oui, il peut avoir recours aux huiles essentielles. Par contre, on va commencer avec cette personne, dans un premier temps, par la voie olfactive, pour être sûr que déjà, de ce côté-là, c'est bien toléré. Et puis surtout que lui apprécie l'usage des huiles essentielles par cette interface. Hein. Une fois aussi que le patient est acteur, on le disait aussi tout à l'heure, au centre de ses soins. Donc c'est lui aussi qui il reste libre de choix quant à l'usage, que ce soit les huiles essentielles, si c'est plus la voie olfactive ou la voie cutanée, parce qu'on n'ira pas sur la voie interne avec cette personne-là, on évitera. Mais déjà, un premier démarrage au niveau olfactif, ça me paraît intéressant. Après, il y a des huiles essentielles qui sont faciles d'usage et qui ont... qui ont une sécurité intrinsèque, hein, ça veut dire que globalement elles sont utilisables une fois qu'on a appris comment les appliquer, c'est assez simple. Et là, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre d'un deuxième usage quand la personne gagnera confiance.
Et est-ce que le shiatsu peut lui redonner de l'énergie?
Oui.
C'est ce qui lui manque beaucoup.
L'énergie, là, de toute façon, il n'y a pas de problème, c'est qu'elle est un petit peu stagnante. Donc, notre objectif, c'est de la faire circuler, que tout se remette en place, et bien entendu, ça marche.
Merci.
Quelqu'un souhaite poser une autre question?
Oui, bonsoir, Marie Plusanski, je suis praticienne de temps en temps shiatsu et éventuellement chez des amis qui sont porteuses de cancer. Je voulais savoir si, au-delà des recommandations de bon sens que vous avez énoncées concernant la pratique du shiatsu chez les patients cancéreux, si au fil de votre expérience, vous aviez pu affiner un petit peu les recommandations concernant ce suivi particulier.
Non, il n'y a pas vraiment de recommandations, si ce n'est, comme je vous disais en préambule, qu'il faut que le contraste soit très clair. Très clair, nous, dans notre, en tant que praticien shiatsu, qu'on sache pertinemment où on va aller, qu'on reste à notre place, on ne joue pas aux apprentis sorciers, on ne va pas bidouiller quoi que ce soit avec nos receveurs. C'est extrêmement important. Et puis, que le contraste soit également clair de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens imaginent un seul instant que vous allez faire des miracles. Ce n'est pas vrai. Il faut aller à Lourdes dans ce cas-là. Et encore, je ne suis même pas convaincu que ça marche là-bas. Donc, je crois que si on reste réellement à notre place, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'autres préconisations par rapport à ça. Et ensuite, je crois qu'en tant que praticien shiatsu, la prise en charge de patients cancéreux, c'est une prise en charge tout à fait normale, comme vous pouvez avoir dans vos cabinets, avec quel que soit le type de pathologie que vous pouvez recevoir. Bon, c'est vrai qu'on met tout un tas de barrières derrière, mais ça reste malgré tout des gens qui ont besoin qu'on les aide, et il n'y a pas forcément de choses spécifiques à faire. Être clair et puis ne pas avoir peur, c'est pour nous une prise en charge normale. Il ne peut rien se passer si ce n'est que des bonnes choses. Donc, globalement, c'est plutôt pas mal.
Est-ce qu'on pourrait revoir le site, les différents sites pour revoir l'émission, la conférence? Je n'ai pas eu le temps de noter.
Alors, la conférence est enregistrée en mode audio et elle sera accessible sur le site de l'espace Mados France. Voilà. Une autre question?
Ici. Bonjour, Brigitte Kilivic, je suis réflexologue plantaire. Vous avez cité tout à l'heure huile essentielle et réflexologie plantaire. Je voulais savoir si on pouvait trouver des études ou des expériences montrant effectivement l'association, la synergie des deux, si ça existe ou pas.
Voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur PubMed, avec vraiment des publications scientifiques, c'était plus les huiles essentielles les plus simples, type huile essentielle de citron, lavande, bergamote, orange. C'est celles qui sont revenues plus souvent. Il y avait l'ylang-ylang aussi. Et elles étaient quand même souvent, par rapport aux études concernées, c'était des massages pratiqués sur tout le corps. Il n'y avait pas spécifiquement la réflexologie plantaire qui était mentionnée. Par contre, je sais qu'il y a des livres hein, qui régulièrement voilà, sortent et qui en parlent, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait des publications. Il faudrait se renseigner. Je les ai pas, en tout cas, si c'est le cas, je ne les ai pas encore croisées.
Merci. Je voulais juste préciser qu'effectivement, je me suis formée en réflexo et oncologie à Tours, puisqu'il y a des cliniques à Tours en fait, qui proposent des soins comme vous à côté, que ce soit Qigong, Shiatsu, etc., et réflexo, et qu'a priori, il y a des effets sur les effets nerveux, lymphatiques et musculaires, grâce à la réflexo, en tout cas.
Je vais passer le micro à Maria Amiro, qui a mis en place, en fait...
Bon, alors moi, je m'appelle Maria. C'est vrai que c'est fait, je pratique ces outils de relaxation, parce que pour moi, ce sont des outils de relaxation, au CHU de Poitiers depuis 1991. Donc j'ai débuté très, très difficilement, parce que ce n'était pas très accepté au départ, ni par mes collègues, ni par les médecins, à l'époque, hein, je parle. Après, petit à petit, grâce aux patients, j'ai pu persévérer. Mais je dis bien que c'est grâce aux patients. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je suis à la retraite. J'ai mis en place au CHU de Poitiers bon, toute cette pratique et cette connaissance. Mais je continue quand même également à travailler en tant que thérapeute en relaxation, en pédiatrie et hémato-oncologie. Donc j'interviens 2 journées par mois. Et donc c'est juste pour vous dire que le shiatsu, je le pratique de plus en plus. Et que les enfants sont très, très demandeurs. Que ce soit vraiment le bébé de quelques mois, jusqu'à, en pédiatrie, on a jusqu'à 18 ans, donc il n'y a pas de souci. Et ça, je le pratique dans toutes les... par rapport à toutes leurs... par rapport à leur pathologie, mais c'est surtout par rapport à leur situation au niveau de leur protocole, hein, que ce soit au début, au milieu ou même à la fin, que ce soit la guérison ou la fin de vie. Voilà. Et j'ai commencé une étude aussi. Non, j'ai pas de questions à poser. C'est juste pour vous dire une... Le bien-être, est-ce que ça apporte et qu'on le pratique également chez les enfants.
Grand merci Maria. C'est grâce à toi que tout a commencé au niveau de notre présence au niveau du CHU et ce qui nous permet. Et grâce aux patients, bien sûr. Mais ça a créé une dynamique qui nous permet d'arriver aujourd'hui. Et ce n'est qu'un bout du chemin, en fait. Hein. Mesdames, messieurs, avez-vous d'autres questions ? Oui, je vous en prie.
Oui, pardon, Catherine Récal, je suis une patiente suivie au pôle de cancérologie. Et alors moi, j'avais plusieurs petites questions. La première, c'est effectivement, vous avez parlé à un moment donné de calendrier. Est-ce qu'il est possible, alors je ne sais pas, parce que moi, ma problématique, c'est que je suis ma chimiothérapie à domicile par voie orale. Et donc, je ne suis pas suivie régulièrement, je ne viens pas régulièrement au pôle et je me rends compte que je rate des occasions, des séances, même si grâce à Sylvie, on a accès à beaucoup d'informations. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je ne suis pas au courant de certaines choses qui sont faites au pôle de cancérologie, je le regrette. Et je voulais savoir si on pouvait, pour les personnes comme moi qui ne sont pas suivies, qui ne viennent pas régulièrement, est-ce qu'il est possible d'avoir accès à ces informations, soit par, sur notre mail personnel avec les différentes dates des ateliers, par exemple je me sens toujours un petit peu à part des autres personnes parce que c'est pas une chimiothérapie classique que je suis. Enfin, voilà. Donc, je me sens toujours un petit peu en retrait. Et je voulais savoir si c'était possible d'avoir accès à ces informations directement chez soi et pour éviter de rater effectivement des bons moyens d'être soulagé.
Alors, c'est vrai que normalement, l'ERI, l'espace de rencontre, c'est un lieu neutre et un lieu où c'est vrai que moi, j'ai jamais accès aux données sur le patient. C'est vrai que j'arrive à vous connaître, les gens qui venaient régulièrement par votre prénom, votre nom, mais normalement, je ne dois pas diffuser d'informations. Mais pour ces ateliers, ce qu'on va pouvoir faire et mettre en place, c'est que vous me laissez les adresses mail pour les personnes qui veulent avoir l'information et que j'essaierai de faire passer régulièrement le calendrier avec toutes les informations pour que vous puissiez l'avoir directement par mail chez vous.
On arrive bientôt au terme de cette table ronde. Oui, c'est parfait. Une autre question, madame.
Est-ce qu'il existe un annuaire des pratiquants, soit du shiatsu, soit en huile, etc., un arôme? Voilà. Est-ce qu'il y a des annuaires? Parce que bon, moi, je ne suis pas de la région et je me dis que ça m'intéresserait. Voilà, contacter éventuellement, si on a besoin de contacter ou quelqu'un pour qui on aimerait éventuellement pouvoir proposer, avant de lui en parler, de savoir si ça existe sur le secteur.
Alors, pour le shiatsu, pour Franck Shiatsu, j'imagine que vous avez un annuaire qui doit être consultable sur votre site, certainement.
Alors, il y a effectivement la fédération Franck Shiatsu sur laquelle on peut trouver des praticiens dans toute la France. Au niveau du département, Shiatsu 86 est en train d'être redynamisé et nous allons donc créer un blog ou un site sur lequel sera répertorié les praticiens Franck Shiatsu ou FFST. Le principal, c'est d'être référencé. Et donc, dans l'immédiat, nous vous invitons à prendre les contacts sur le site de la Fédération Franck Shiatsu, FFST, et également au niveau de l'association Shiatsu 86 et l'école de Shiatsu.
Alors pour la FFST, nous avons sur le site officiel de la Fédération une carte interactive où vous cliquez votre département et ça vous donne tous les praticiens qui sont affiliés à la Fédération française de Shiatsu traditionnel donc sur votre secteur. Tout en sachant qu'il y a des secteurs qui sont un petit peu pauvres.
Voilà, absolument.
Voilà, c'est extrêmement important, ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez bien le temps de questionner votre praticien sur sa formation. S'il y a 8 jours de formation, fuyez.
L'association Accord propose aussi des ateliers pour mieux connaître les huiles essentielles. L'association
oui.
Accord.
Oui, c'est moi qui interviens à l'association Accord. Alors, c'est toute la difficulté de ce métier que j'ai créé, hein, de spécialiste en huile essentielle. C'est qu'en fait, avant, c'était une branche spécifique de la naturopathie ou autre. On utilisait les huiles essentielles un peu comme un outil numéro, voilà. Et il n'y avait pas vraiment de gens qui étaient spécifiques dans ce domaine. Alors, vous avez... c'est pour ça que je me nomme spécialiste en huile essentielle, parce que moi, je viens du côté botanique, biologiste. Et en fait, pour être aromathérapeute et phytothérapeute, il faut être médecin et avoir fait le DU de conseil et information en phytothérapie, aromathérapie à l'Université Paris 13. C'est pas sur le site de l'Université de Paris 13 que vous aurez les gens qui sont diplômés. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, il faut demander en fait à chaque personne comment elle a été formée à l'aromathérapie, et bien souvent c'est pas son métier premier, ça va être une carte parmi d'autres. Moi j'ai vraiment fait le choix personnel de me spécifier dans ce domaine et d'être vraiment experte dans le domaine de l'aroma. Bon, vous avez des écoles, c'est comme le shiatsu, mais nous on n'a pas de fédération en aromathérapie. Là, par contre on est un peu, on démarre, hein, donc c'est comme les ostéopathes quand ils ont débuté. Donc vous n'aurez pas forcément beaucoup de choses au début pour savoir vers qui vous allez. Par contre, ouais, vous avez des stages de 8 jours aussi pour être aromathérapeute, entre guillemets, et puis vous avez voilà, des années d'études. Donc bon, je sais que l'école Pénoël fait une formation qui était quand même avant 2 ans, maintenant étant 1 an. Donc déjà, je trouve que c'est un peu moins bien. Mais sur leur site, en tout cas, vous aurez déjà des gens qui ont fait 1 an d'aromathérapie, ce qui est déjà pas mal parce qu'en France, on n'a pas beaucoup d'écoles. Voilà. Et après, quant à voir ceux qui ont le DU, c'est très difficile à trouver. Voilà. Je sais, hein, c'est un problème. Clairement, trouver d'autres... essayer de s'y retrouver, bah, c'est compliqué. Il faut demander hein, les études qui ont été faites à la personne. Voilà, bah ça c'est avec à l'association Accor, par exemple, ça a été mis en place sur une dizaine de séances avec des modules, module digestif, module bien-être respiratoire, etc., pour apprendre aux gens à utiliser les huiles essentielles dans le cadre quotidien pour eux. Donc ça se fait déjà avec certaines associations. J'essaye au mieux d'en faire régulièrement. Mais je suis très occupée, donc je fais ce que je peux. Voilà. Sur mon site internet, hein, donc c'est alexia-blondel.fr. Vous avez toutes les dates, tous les mois, de tout ce qui est fait en aromathérapie. Par contre, c'est dans la Vienne. J'en ai fait un peu à Paris, mais j'ai arrêté parce que je n'avais pas le temps.
Bonjour. D'abord, bravo pour tout ce travail. Et est-ce que d'autres hôpitaux au niveau de la France font ce même travail ? Ou ont plus avancé ou moins avancé ? C'en est où ? Parce que là, on parle de Poitiers, un peu Bordeaux par vous, mais au niveau de la France...
Alors, c'est très... Au niveau shiatsu, hein, c'est très, très, très sporadique. Il y a des... On entre de plus en plus à l'hôpital, à vrai dire. Pas forcément en cancérologie, hein, dans tout un tas de secteurs. Moi, je pense notamment aux services de pédiatrie, aux services de personnes âgées, où il y a vraiment de très, très belles prises en charge. Alors... ça commence à rentrer un petit peu. Il y a souvent des problèmes de budget parce qu'on n'intervient pas toujours de manière bénévole. Et ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Ensuite, ce n'est pas tellement connu. Donc, il faut prendre notre bâton de pèlerin, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu en aparté. Aller frapper aux portes, aller proposer des projets. Bon, on va se faire refouler 9 fois sur 10, mais la 10e fois, on va rentrer. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je connais quelques hôpitaux en France où ils travaillent énormément sur... où la prise en charge shiatsu, en tout cas, est bien introduite, notamment dans les unités de prise en charge de la douleur. On en a quelques-uns sur la Gironde. Moi, j'ai une de mes étudiantes qui est certifiée maintenant. On lui a proposé un travail à l'hôpital de Libourne. Donc, elle est manipulatrice radio. On lui a dégagé un carton, je crois, pour qu'elle puisse faire du shiatsu dans le cadre de l'unité douleur. Donc, il y a tout un tas de petites choses qui se font à droite, à gauche. Je sais que l'hôpital de Dreux, par exemple, en Eure-et-Loire, fait une prise en charge douleur également, une prise en charge shiatsu dans l'unité douleur. Donc, on en trouve de plus en plus. Maintenant, ce n'est pas encore complètement dans les mœurs. Je crois qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour qu'on y arrive. Mais les médias sont quand même de bons supports actuellement. On a eu un très, très bel article en mois de mai dans Le Point, où pour une fois, un grand média s'intéressait à tout un tas de techniques. Il n'y a pas uniquement shiatsu, il y avait du qigong, il y avait de l'ostéopathie, il y avait plein de techniques qui étaient présentées. Et je crois intéressant le fait que ces médias commencent à s'y intéresser, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être entrer et proposer sans doute des choses qui sont intéressantes. Mais on est encore sur quelque chose de très, très marginal, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein.
Je rajouterais que c'est vrai que l'hôpital et les médecins notamment, hein, parce que je pense que ça a été un gros frein au départ, hein, il y avait une espèce de défiance avec ce genre de technique, mais que les médecins sont de plus en plus ouverts à des techniques complémentaires. Par contre, ce n'est pas du tout le cas des administratifs, à cause des budgets qui sont de plus en plus serrés, de plus en plus réduits. Donc je pense que c'est vous, les usagers, qui pouvez faire pression, enfin en tout cas écrire aux directions d'usagers en disant c'est important pour nous d'avoir ce genre de technique à l'hôpital. Et peut-être que si vous montrez que vraiment c'est nécessaire, il y aura beaucoup plus de poids pour en avoir.
Alors l'acupuncture, eh bien on pique, hein, donc c'est un acte médical. On n'a pas le droit, nous, de piquer. Maintenant, je crois que... Bon, on est cousins germains, il ne faut pas non plus se voiler la face. Hein. On travaille sur les points, mais pas de la même façon que nos amis acupuncteurs. Je crois qu'on a une prise en charge qui est un petit peu plus globale. Les acupuncteurs vont travailler sur un symptôme, donc ils vont sélectionner 3 ou 4 points peut-être pour placer leurs aiguilles. Nous, on va travailler sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche, à mon sens, hein, qui va être beaucoup plus globale que peut l'être celle des acupuncteurs, et qui sont très analystes. Nous, c'est-à-dire qu'avec notre prise en charge, on va intervenir à tout un tas de niveaux. On va intervenir au niveau physique, mais on va intervenir également à d'autres niveaux un petit peu plus subtils. On va intervenir au niveau psychologique, on va travailler sur le niveau émotionnel également, sur le niveau énergétique. Donc quelque chose qui... Tout à l'heure, je vous parlais dans la définition que c'était une démarche holistique. Hein. Holistique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'une prise en charge globale. Les acupuncteurs sont un tout petit peu plus vraiment spécifiques dans leur action. Nous, je crois qu'on travaille un petit peu plus largement.
Pour revenir aux soins shiatsu en milieu hospitalier, il y a une association qui s'appelle Oncologie 37, oui. Qui en fait prend en charge un certain nombre de techniques, trois séances pour chaque technique. Donc il y a le shiatsu, la naturopathie, la réflexologie plantaire, sophro, psychologie, socio-esthétique et même sexologue. Voilà. Donc on espère que ça va faire des émules. Ce qui se passe également, c'est qu'au niveau de la prévention, ce qui est normalement à la base de ces techniques, la priorité c'est la prévention, entretenir la bonne santé pour éviter de tomber malade. Et les mutuelles commencent à rembourser ou prendre en charge une partie des soins dans certains packs santé. Donc après, c'est également à vous, en tant que patient et adhérent, de faire circuler l'information et de faire des demandes, puisque ça commence à se mettre en place. Voilà.
Oui, donc je voulais revenir par rapport aux huiles essentielles au niveau national. Ce n'est pas encore, dans les soins de support, c'est vraiment son introduction. Là, on est sur le point de départ. Donc on essaye de mettre l'aromathérapie au même niveau que les autres soins de support actuels et d'essayer d'harmoniser. Mais c'est un travail qui est en cours. Il y a les services. En fait, ça, c'est pas tant les hôpitaux, mais c'est chaque service dans un hôpital qui va peut-être pouvoir développer l'aroma et qui l'a fait. Donc dans le sud de la France, vous avez quand même quelques hôpitaux qui ont déjà essayé l'aromathérapie, la diffusion en pédiatrie aussi, parce qu'on a vu que l'huile essentielle de vanille évitait la mort prématurée du nourrisson, en tout cas avait des bons résultats, parce que ça avait au niveau de l'impact olfactif, le bébé avait un peu l'impression que sa mère était proche et ça le garder éveillé. Donc les études scientifiques ont bien sûr découlé de vrais travaux qui ont eu lieu dans certains hôpitaux. Par contre, en France, si on regarde maintenant de manière internationale, on est encore un peu au départ, quoi. Hein, vous avez le congrès international d'aromathérapie à Grasse, auquel je vais participer en avril 2014. Et sur 14 conférenciers, vous en avez 4 ou 5 français, je crois. Donc les autres sont italiens, allemands, anglais, viennent des États-Unis. Donc il y a vraiment le monde, et il y a même le Japon aussi qui travaille beaucoup sur l'impact olfactif et ce que ça peut en découler au niveau des bienfaits. Voilà. Et sinon, il y a l'hôpital Saint-Louis qui, avec lequel j'ai travaillé, qui déjà, pour les patients en traitement là-bas, ont mis en place des ateliers senteurs. Donc ça s'appelle on s'est un peu basé là-dessus avec Sylvie pour créer les nôtres. Mais eux, ils font des lectures parfumées et ils partent vraiment sur une histoire et avec associés en fait à des odeurs. Donc c'est intéressant aussi, et dans cette perspective-là, vous avez aussi, par rapport à la maladie d'Alzheimer, toute une possibilité de travail olfactif et cognitif avec les huiles essentielles. Donc là, ce qui s'ouvre devant vous, c'est énorme, et maintenant il reste à mettre en place tout ça.
Et d'un point de vue législation, je reviens à ce que tu disais, Alexia, ce sont des pratiques qui ne sont pas officiellement reconnues. Mais il faut savoir que le Parlement européen, depuis 1997, a reconnu le shiatsu et je crois l'aromathérapie également, comme étant, entre guillemets, je cite, une des 8 médecines non conventionnelles dignes d'intérêt. 3 points de suspension. Mais voilà, donc c'est à nous, praticiens, mais aussi receveurs, de prendre notre santé en main. D'être acteur, de ne pas tout attendre des autres. En fait, ça va peut-être être le mot de la fin. J'ai en profité aussi pour remercier la Nouvelle République Centre-Presse qui nous a écrit un bel article ce matin. Voilà, donc ça bouge. Donc il y a eu beaucoup de monde. J'ai su qu'il y a eu des personnes de refusées à l'entrée. Donc pour une première, vraiment, c'est un succès. Peut-être le début d'une longue série. Voilà, donc un grand merci à vous tous. J'espère que vous avez eu un certain nombre de réponses. Si vous vous interrogez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Et puis, prenez soin de vous.
Voilà. Merci.